hadith sahih où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un croyant ne doit pas, un croyant ne doit pas détester une croyante. Un croyant ne doit pas détester une croyante. Il a dit, ou bien la haïr, il a dit in kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Il déteste quelque chose d'elle, de son caractère, inshallah ta'ala, il sera agréé, il sera ravi par d'autres choses. Non, il déteste une chose en elle, il y a des dizaines de choses, il y a des centaines qui sont bien en elle. Je ne vois pas pourquoi on voit seulement le côté négatif. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprend à comparer, et à donner un jugement final à qui est beaucoup. Tu vois ici ce qui est beaucoup, qu'est-ce qui est beaucoup en la femme, c'est sûrement ses qualités et non pas ses défauts. Donc, s'il y a un défaut qui te déplaît en elle, regarde ses qualités et ne les oublie pas. Nan. Autre chose, on avait dit aussi autre chose ici, on avait dit que toutes les personnes se divisaient en quatre groupes. Toutes les personnes, on avait dit, se divisaient en quatre groupes. Ou bien on est né de père et de mère, comme tout le monde, ou bien on a ni père ni mère, comme Adam alayhi salam, ou bien on a une mère sans avoir de père, comme Isa, Jésus alayhi salam, ou bien on a seulement un père et on n'a pas de mère, comme Hawa alayhi salam. Ensuite, on avait dit autre chose pour finir, on avait dit que, si, on sait maintenant, et on est sûr, que Hawa, alayhi salam, a été créée de Adam. Donc, alhamdoulilah, la chose qui étonne les gens, etc. Je trouve pas le mot. Maintenant, le problème est résolu. Le problème complexe de la poule et de l'œuf. La poule et de l'œuf, le problème est là, l'énigme. Je cherche le mot énigme. L'énigme est résolue de Ibn Azzawajal. Le cercle vicieux est terminé. Car si tu dis la poule, on va te dire d'où elle est venue, il faut qu'il y ait un œuf avant elle. Si tu dis c'est l'œuf qui a été le premier, on va te dire l'œuf d'où est-il venu, il faut qu'il y ait une poule avant lui. Et le Coran a bien montré dans le verset, sur ce dernier verset 49, a bien montré, il a dit, et de toutes choses nous avons créé deux éléments, deux couples. Peut-être vous rappellerez-vous. Et de toutes choses nous avons créé deux éléments de couple. Peut-être vous rappellerez-vous. Donc, alhamdoulilah, maintenant, on n'a plus aucun problème. On dit Allah subhanahu wa ta'ala a créé de toutes choses un couple. Naam. Comme il a créé Adam et sa femme. Il a créé le coq et la poule, le singe et la guenon, la vache et le taureau est comme ça. Le mouton et la brebis, l'âne et la nef, le cheval et la jument est comme ça. Donc, alhamdoulilah, le problème a été résolu. Le problème a été résolu. Sinon, on rentre dans un cercle vicieux infernal. Naam, un cercle vicieux infernal qui ne peut jamais s'arrêter. Si tu restes comme ça des heures à parler, on ne va pas s'arrêter. Donc le problème, inshallah ta'ala, est résolu. Maintenant, on va parler bi'idhni azza wa jal de l'arbre. Naam, l'arbre dont Adam et Hawa furent interdits d'en manger. L'arbre dont Adam et Hawa furent interdits d'en manger. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et n'approchez pas cet arbre. Sourate 2, verset 35. Selon une opinion, il est suggéré que cet arbre était une plante grimpante. D'après une opinion, il y a beaucoup d'opinions, on va voir inshallah ta'ala quel est le plus vrai. D'après une opinion, cet arbre c'était quoi? C'était une plante grimpante. Les juifs l'ont interprété en blé. Les juifs se sont dit, Adam alayhi salam, a mangé du blé. Allah ta'ala lui a interdit de manger le blé. Et Wahb ibn Munabbih a dit, l'arbre dont Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Adam d'en manger, ses semences sont plus douces que le beurre et plus délicieuses que le miel. Abu Malik dit, radiallahu ta'ala, il a dit, c'était un palmier, donné des dates. Tandis que Mujahid, radiallahu ta'ala, suggéra que c'était un figuier. Ce qui est également l'opinion d'Ibn Qatada et Ibn Jurayk. Cependant, Abu Ali a dit qu'il était un genre d'arbre que si une personne en avait mangé, il aurait excrété. Il serait obligé d'aller aux toilettes. Donc, par conséquent, serait obligé de vider son intestin. Alors que le paradis n'est pas une place pour excréter. Le paradis n'est pas une place pour excréter. Car vous savez tous que dans le paradis, on n'excrète pas, on n'urine pas, on ne vomit pas, on ne tombe pas malade, les femmes n'ont pas les menstrues. Il n'y a pas de sang qui coule du nez, il n'y a rien, on ne crache pas. Non, le paradis est pur et il a été créé pour les purs. Ce n'est pas pour qu'on tombe là-bas malade et pour qu'on ait des maux de tête et pour qu'on va chercher le médecin, etc. Tout ça, sinon ce n'est plus un paradis. Sinon, ce n'est plus un paradis. Donc, toutes ces différences, vous remarquez qu'elles sont assez proches dans leur nature. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala, vous remarquez qu'il n'a pas spécifié son nom. Non. Et le fait donc reste obscur. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié le nom de l'arbre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu. C'est pour ça que deux intérêts. Le premier intérêt, c'est quoi? C'est que donc ce n'est pas non. Et deuxièmement, quand il y a comme ça des divergences, on ne sait pas quelle opinion prendre, on va directement à la sunna chercher si on trouve quelque chose. Ici, alhamdoulilah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'il a dit. Au paradis, il y a un arbre. Dans un autre récit, cet arbre s'appelle Touba. À l'ombre duquel le cavalier marcherait pendant 100 ans sans qu'il ne la traverse, sans qu'il ne traverse l'ombre. C'est dans le Bukhari, le hadith 3252 et Muslim 2826. Donc il y a un arbre, un des arbres au paradis que, yani son ombre, tous les arbres ont de l'ombre. Pourtant au paradis, il n'y a pas de soleil. Au paradis, il n'y a pas de soleil. Il y a la lumière, il y a le mur. Non. Et pourtant, cet arbre a une ombre de combien? Cette ombre, si on essayait de la traverser, un cavalier sur son cheval resterait 100 ans pour traverser cet arbre. Alors, on va se dire quoi? C'est dire comment ou combien est grand cet arbre des timons. Carrément, un arbre, plus il est haut, il est grand et large, plus il fait d'ombre, comme vous devez le savoir. Imaginez, cet arbre, quand il fait de l'ombre, les arbres de ce bas monde, combien ils font, par exemple, combien fait ton temps pour traverser leur ombre? Quelques secondes, tu traverses l'ombre. Mais l'ombre de l'arbre du paradis, il te faut 100 ans pour la traverser, ou du moins cet arbre, Naam. Donc nous, je dirais en passant aussi, il est cité dans un autre hadith que quoi? Il est cité que cet arbre, il a aussi une autre particularité, laquelle les gens du paradis, quand ils veulent s'habiller, ils veulent changer d'habit, c'est de cet arbre qu'ils prennent leurs habits. C'est un arbre spécial, au lieu de donner des fruits, ils donnent des vêtements. Et peut-être, Allah est plus savant. Peut-être qu'il donne des fruits en même temps des vêtements. Mais les vêtements, c'est sûr, comme c'est dans un autre récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire là? Qu'est-ce qu'on veut conclure? On veut conclure que il n'y a pas un verset, il y a un hadith qui a cité le nom de l'arbre. L'arbre dont Adam a mangé. Il n'y a aucun verset ou aucun hadith qui a cité. Et si on avait un intérêt à ce que le nom de cet arbre soit mentionné, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, ne l'aurait pas négligé. Et le prophète, alayhi wa sallam, l'aurait montré. Il aurait dit, cet arbre s'appelle ceci et cela. Et il lui aurait donné un nom. Donc la règle dit que, à chaque fois qu'une chose n'est pas mentionnée, sciemment, la boule, qu'elle ne soit pas mentionnée, c'est parce que le fait d'être mentionné et nommé n'a pas beaucoup d'intérêt, ne comprend pas beaucoup d'intérêt. Et il y a des exemples en cela, je citerai par exemple le verset, ou par exemple, je ne sais pas si vous avez le verset là, ça y est, le verset où par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit par exemple dans le 1850, regardez ce qu'il a dit. Allah Ta'ala a dit, allez-vous cependant le prendre, c'est Satan, allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis, allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, c'est-à-dire sa progéniture, ses enfants, pour allier en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis. C'est quoi le témoin ici? Le témoin ici du Dars, c'est que lorsqu'Allah Ta'ala a dit ainsi que sa descendance, en parlant de Satan, donc c'est une preuve que Satan a des enfants. Et pour qu'il ait des enfants, donc Satan a une femme, a des femmes, une ou beaucoup, muhim. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité qu'il avait des enfants, la progéniture, et qu'il avait une femme, vous allez lire dans certains livres que beaucoup vont essayer et vont s'évertuer pour essayer de trouver quel est le nom de la femme de Satan. Quel est le nom? Vous trouvez ça dans les livres des églisettes. C'est ainsi. Non. Celui-là, il dit, elle s'appelle X, l'autre, il dit, elle s'appelle Y, l'autre. Mais tout ça, bien sûr, sans preuve, c'est-à-dire sans hadith, sans verset. Non. C'est ça que s'il y avait quelconque intérêt, Allah subhanahu wa ta'ala aurait cité le nom de sa femme. Mais ça n'a pas d'intérêt pour qu'on sache cela. C'est pourquoi quelqu'un a demandé à un savant, un théologien, il lui a dit, je voudrais vous poser une question. Il lui a dit, tafadhal, c'est quoi? Il lui a dit, je voudrais savoir quelle est la femme de Satan. Je voudrais savoir quelle est la femme de Satan. Et le théologien qui avait de la science, mashallah, a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu? J'ai pas assisté à son mariage. Il a dit, j'ai pas assisté à son mariage. Non. Si j'avais assisté au mariage de Satan, peut-être que j'aurais eu peut-être l'audace de demander quel est le nom ou le prénom de sa femme. Mais il lui a dit, je n'ai pas assisté. Satan, quand il a fait le mariage, il ne m'a pas invité. Il a invité seulement les diables. Non, il ne m'a pas invité. La même chose, par exemple, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans Sourate Kahf. Dans Sourate Kahf, il a parlé du groupe qui sont cachés, etc. Comme vous connaissez toute l'histoire. Et il a parlé d'un certain chien. Il a dit, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche, c'est-à-dire les hommes. Tandis que leur chien est à l'entrée, pas étendu. Tandis que leur chien est à l'entrée de la caverne, pas étendu. Non. Ici aussi, certains exégètes, qui traduisent le Coran, ont voulu chercher qui est ce chien. D'abord, quel est son genre? C'est un chien de chasse, ou est-ce un chien policier, ou est-ce un chien berger, Et c'est un Doberman. C'est quoi, quel genre de chien? Ensuite, quelle est sa couleur? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est marron? Est-ce qu'il est tacheté? Est-ce qu'il est moucheté? Est-ce qu'il est je ne sais pas? D'autres ont cherché le texte. Est-ce que c'est un chien ou une chienne? Vous trouvez ça dans les livres. Tout ça n'a pas d'intérêt. Que je sache que ce soit un chien policier ou pas, ça ne va pas faire rentrer au paradis. Non. Et que je sache, par exemple, si c'est une chienne ou si c'est pas un chien, si Allah Ta'ala me demande d'entrer en enfer, je lui dis, Allah, attendez, je connais, c'est une chienne, c'est pas un chien. Il va pas me dire, là, donc va au paradis. Non, tout ça. Et comme disent les ulama, il y a certaines choses, si tu l'apprends, non, là, il ne fait aucun. Ça te donne aucun intérêt. Et si tu l'ignores, ça fait pas mal. Il y a certaines choses. Quand tu l'apprends, ça te donne aucun bien. Ça s'ajoute rien. Et certaines choses, quand tu l'ignores, ça ne te fait aucun mal. Non, ça c'est ce genre. Ça, c'est ce genre. Maintenant, on va parler, Inch'Allah Ta'ala. Non, on va parler de l'endroit où était, non, l'endroit où était Adam alayhi salam. L'endroit où était Adam alayhi salam et sa femme Hawa. Vous savez que, là, ici, aussi, les ulama ont divergé. L'endroit du paradis, est-ce qu'il était au ciel ou là, il était ici, sur terre? Allah Ta'ala dit, nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un livre, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. 2:28. Le témoin, certains exégètes ont dit quoi? On dit ce paradis où est rentré Adam et sa femme Hawa, Eve, se trouve au ciel et pas sur la terre. Et notre preuve, c'est ce verset. Allah Ta'ala, quand ils ont mangé de l'arbre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, descendez d'ici. Descendez. Ils ont dit, et on ne descend que du haut vers le bas. Naam. Quand il a dit descendez, ça veut dire qu'ils étaient en haut. Et leur a dit de descendre. Donc c'est un délit. Ils ont dit, voilà notre preuve, que quoi? Que ce paradis était en haut et n'était pas en bas. Et c'est l'avis de la plupart des ulama. Naam. C'est l'avis de la plupart des savants de l'islam. Et ils disent que ce paradis était en haut et qu'il s'appelait le jardin de la demeure. Le jardin de la demeure. Et d'autres, cependant d'autres, n'ont pas agréé cette opinion. Naam. Et ils ont dit que c'était en bas, c'était pas en haut. Leur preuve, ils ont dit, nous on a une preuve, ils ont dit, si c'était le paradis de la demeure, comme vous dites, si c'était le paradis de la demeure, comme vous dites, alors Adam alayhi salam, n'aurait pas été défendu de manger de cet arbre-là. Naam. Comment? Allah Ta'ala fait rentrer quelqu'un au paradis, il lui dit, ne mange pas cette chose. Donc, ils ont dit, ça c'est un paradis, c'est un paradis qui était sur terre. C'est juste un petit paradis pour leur faire l'épreuve, pour faire l'épreuve à Adam et Hawa. Mais ce n'était pas le paradis du ciel. Il y a voilà, deux grandes écoles, deux grandes opinions sur le paradis. Est-ce qu'il était en haut ou est-ce qu'il était en bas, avec beaucoup de dalils que je n'ai pas voulu donner parce que tous les dalils ne sont pas très clairs, mais on préfère marcher avec l'opinion de la plupart des églisettes qui ont dit quoi? Qui ont dit que c'était le jardin de la demeure et que ce paradis était en haut. Le paradis était en haut et non pas en bas. Naam. Maintenant, avant de passer au nouveau DAF aussi, je voudrais dire aussi que en ce qui concerne l'arbre, bon, Adam et Hawa ont mangé, naam. Certains ont dit, c'est un arbre, seulement un arbre, un seul, qui leur a été interdit. Et beaucoup disent, ce n'est pas un arbre, mais c'est le genre d'arbre, le genre. Par exemple, le pommier, le figuier, et manger de tous les arbres, de tous les fruits, sauf par exemple le figuier. Donc tous les figuiers tous les figuiers sont interdits. Ceux qui ont dit le figuier, ceux qui ont dit le palmier, savent, tous les palmiers sont interdits. Tu ne manges d'aucun palmier, si c'est le palmier, bien sûr. Ça, c'est beaucoup on dit comme ça. Certains ont dit, non, il y avait seulement un arbre. De tous les arbres du paradis, il y avait seulement un arbre, un spécialement, quand il était interdit de manger. Par exemple, cet arbre, celui-là, n'en mange pas. Mais tous les autres arbres, tu peux manger. Wallahu ta'ala a'lam. Ici aussi, il n'y a pas un dalil très clair en ce sens. Ensuite, on va passer maintenant, bi'idna azza wa jal, au Satan et son chuchotement à Hawa. Hawa et Adam aussi. Satan et son chuchotement. Naam. Satan et son chuchotement, comme il le souhaite. Son chuchotement à Adam et Hawa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire leur nudité. Et qu'il a fait leur chuchota disant, votre Seigneur ne vous a interdit cette phrase que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Ou d'être immortels. Naam. Je colle ici le verset. Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire leur nudité, il leur chuchota disant, votre Seigneur ne vous interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Ou d'être immortels. Bien sûr, il leur a dit beaucoup de choses. Il leur a dit beaucoup de choses. Mais on va parler de ces choses une après l'autre. Une après l'autre. Voyez. Ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, regardez le diable, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Le diable, qui est très rusé, n'est pas plus rusé que lui, et puis le satanique. Ça, il s'appelle Satan. Non, il s'appelle Satan. Il avait un but, c'est quoi? C'est qu'ils perdent leurs vêtements. Qu'ils perdent leurs vêtements. Alors, il est venu vers eux, il leur a chuchoté, certains ont dit, il leur a chuchoté de la barrière, sans rentrer. Non. Et d'autres ont dit, il est rentré, mais il n'est pas resté en passant. Il passait seulement, il ne peut pas rester dans le paradis. Et d'autres ont dit, mais la plupart, comme j'ai dit, le plus sûr, ils ont dit de la barrière du paradis. D'autres ont dit, il est rentré dans un serpent. Il est rentré à l'intérieur d'un serpent et le serpent est rentré. Ça se trouve même dans la Torah, dans la Bible, je crois aussi, et dans certains livres musulmans. Un moyen. L'essentiel, c'est quoi? Il leur a dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Allah al-Azim. Regardez le mensonge à quel point. À quel point, Allah al-Azim. Il a menti sur qui? Sur Allah. Allah, votre Seigneur, vous a interdit cet arbre pour ceci et cela. Vous connaissez un plus grand mensonge que celui-là? Mentir sur Allah, Dieu, Allah, mentir sur lui et dire que il nous a interdit cette chose à cause de cela. Donc, il veut amochir, il veut donner une très 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 mauvaise image, c'est-à-dire sur la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah subhanahu wa ta'ala nous empêche à cause qu'il nous voudra du bien. Il y a un arbre qui nous allait manger de ses fruits, vous allez devenir des anges, ou peut-être même, vous ne mourrez jamais. Vous ne mourrez jamais. Donc, il vous a empêché de cela. Subhanallah al-Azim. Subhanallah, regardez ce que pense Satan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que tous les croyants doivent penser d'Allah subhanahu wa ta'ala toujours la meilleure des choses. Même si ça arrive le plus grand malheur, tu dis Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de moi du bien. Non, même si ça arrive le plus grand malheur du monde, tu dis Allah ta'ala aime le bien et aime les croyants, et en faisant ceci, il me veut du bien. C'est moi qui mérite plus que cela. Moi, je mérite vu mes péchés, mes grands péchés qui se suivent, qui ne paraissent pas jour et nuit, donc je mérite plus que cela. Allah Ta'ala a été, masha'Allah, avec moi, il ne m'a donné que cette chose. Il aurait pu me donner plus grâce. Non. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours dit, regardez à ceux qui sont au-dessus de vous. Hein? Alors là, vous à peu près, vous connaîtrez les bienfaits, les ni'mat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Quand tu regardes celui qui est plus bas que toi, tu dis mashallah. Mais si tu regardes celui qui est plus haut que toi, tu seras toujours malheureux. Hein? Tu regardes celui qui est plus riche que toi, celui qui est plus beau que toi, celui qui fait son travail, fait rentrer mieux que son travail, et comme ça, tu seras toujours malheureux. Celui qui a un appartement plus beau que son appartement, celui qui a une voiture mieux que sa voiture, tu veux regarder plus haut, tu seras toujours malheureux et malheureux. Regarde celui qui est en bas. Quand tu as la voiture la plus ancienne, regarde celui qui a le vélo. Tu dis, au moins, moi j'ai une voiture. Lui, il a le vélo. Quand tu as le vélo, regarde celui qui marche à pied. Regarde celui-là, il marche à pied ici. Il ne peut même pas acheter un vélo. Et comme ça, tu verras, inchallah, que tu seras l'un des plus heureux. Le shaitan ici, Satan, c'est que quoi? C'est que toute personne voudrait si elle pouvait être immortelle. Alors il est venu avec sa ruse du côté où il sait qu'il va influencer. Satan ne va pas venir pour te parler des choses qui ne t'intéressent pas. Il va te parler des choses dont tu aspires, des choses dont tu rêves, des choses qui ne te sont pas accessibles, qui sont très loin de toi, mais que tu donnerais tout ce que tu possèdes pour avoir cette chose. Non, c'est ça qu'il a dit. Et de ce verset, certains savants ont dit, donc, les anges sont mieux que les êtres humains. Ils ont dit la preuve, Satan lui a dit, Allah t'a empêché pour pas que tu deviennes un ange. Ça veut dire donc, l'ange est mieux que toi. Mais, il y a beaucoup de dalils, Inch'Allah ta'ala, peut-être qu'on les citera au moment opportun, qui montrent que, l'avis le plus sûr, c'est que nous serons mieux que les anges au paradis. Pas maintenant. Maintenant, eux, ils ne font pas de péché, ils ne font pas ceci, ils ont écrit de lumière, etc. Mais on sera mieux que lorsqu'on rentrera au paradis. On sera plus élevé que les anges, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah. Mais ce n'est pas le sujet. C'est le mohim. Autre chose. Pourquoi ici? Que voulait ici Satan? Que voulait Satan ici? Il a dit, Allah a dit ici, dans ce verset, remarquez avec moi, il a dit, on est chez ce verset, puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, c'est-à-dire, afin de rendre visible leur nudité, leurs parties intimes, alors il chuchota. Donc, le shaitan, son but, c'est quoi? C'est s'il peut, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève aux gens les vêtements. S'il peut, il enlève aux gens leurs vêtements. Comme il a fait ici, il a réussi, et il a enlevé à Adam et sa femme Ève, il leur a enlevé leurs vêtements. Comment il a fait pour les enlever? C'est pas avec ses mains comme ça, mais par un chuchotement, et ils ont mangé de l'arbre, et ils se sont retrouvés nus. Comme ça va venir, c'est pour ça que les ulama, les savants disent que si, par exemple, quelqu'un se voit dans le songe nu, ça veut dire que il faut qu'il révise sa foi. Il est vraiment faible de foi. Ils ont dit comme règle, plus tu te vois dans le songe habillé, plus tu es bien dans ta foi. Plus tu sens que tu as enlevé certains vêtements que tu ne devais pas enlever, plus ta foi n'est pas bien. Plus ta foi n'est pas bien. D'ailleurs, regardez le prophète, le récit que je viens de citer maintenant, que je viens d'afficher. Entre parenthèses, je donne un conseil à tous mes frères et mes soeurs, mes fils et mes filles, de faire le possible d'avoir l'arabe dans le PC. Ah, il vous faut l'arabe, surtout vous voulez l'arabe, vous voulez apprendre l'arabe. Il y a toujours des versets en arabe, des hadiths en arabe. Mais selon ceux qui n'ont pas l'arabe, ils voient des lettres bizarres, des choses bizarres comme ça. C'est du chinois. Ceux qui ont l'arabe, ils voient ce qui est écrit. Et pour avoir l'arabe, c'est très très facile. c'est très facile. Il suffit d'avoir seulement le Windows, avec Windows, le CD. Et vous le rentrez, vous allez dans un endroit, vous cliquez Control Panel à l'intérieur où il y a les langues. Seulement vous cochez une case et vous dites je veux l'arabe. C'est écrit là-bas les langues asiatiques. Vous ajoutez, vous cochez et vous avez l'arabe en 30 secondes. Ceux qui ne savent pas, qu'ils prennent leur PC à quelqu'un qui leur mette l'arabe. Hein, car c'est très important. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما انا نائم رايت الناس يعرضون علي وعليهم خمس le prophète عليه السلام a dit alors que je dormais j'ai vu des gens qui يعني venaient vers moi comme ça on les montrait vers moi et ils avaient des habits ils avaient des خمس قميص ils avaient des habits assez longs منها ما يبلغ السبي certains vêtements arrivaient à la poitrine au sein ou minha ma yblughduna dhalik certains plus bas wa marra alayya Omar ensuite Omar ibn Khattab est passé devant moi c'est-à-dire dans le songe wa alayhi qamisun yajurruhu avec un qamis qui traînait derrière lui ils ont dit qalu ya rasulullah mada awwalta ya rasulullah c'est quoi d'après toi ce songe Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que, yani, on lui a dit d'après toi c'est quoi le fait de voir Omar avec quelque chose de long, il a dit c'est la foi, c'est le din. Donc malgré que pour un homme c'est interdit qu'il mette quand il est conscient, c'est-à-dire pas dans le rêve, c'est interdit qu'il mette quelque chose de long qui descend jusqu'à plus de ses chevilles. Mais dans le songe, ça ne fait rien, dans le songe. Plus on voit qu'on a des habits longs, plus ça veut dire qu'on est bien en notre foi. Plus on voit qu'on a des habits courts, plus ça veut dire que notre foi est faible et qu'il faut la réviser. Donc, conclusion, le shaitan ici a réussi et il leur a enlevé leurs vêtements. Donc, plus on est enclin à enlever nos vêtements, plus ça veut dire notre foi est faible et on va vers le péché. Plus on a la foi dans notre cœur, plus on voudrait s'habiller et ne rien montrer de nous. Et surtout la femme. Plus sa foi est mashallah, plus elle veut se cacher. Et plus elle est faible de foi, ça ne lui dit rien. Elle montre un peu ses cheveux, je parle de la pratique en ça. Elle montre un peu ses cheveux, elle peut mettre le maquillage en sortant. Elle peut sortir avec le rouge à lèvres, elle peut montrer ses avant-bras, elle peut montrer son tibia, ses chevilles, ça ne lui dit rien. Pourquoi la foi est faible? Plus la foi rentre dans le cœur, plus elle voudrait ne rien montrer d'elle. Ne rien montrer d'elle pour que Iblis, Satan, n'ait pas d'influence sur elle. Et plus, vous voyez plus. Il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de foi, plus la femme se montre et plus yani, ça ne lui dit rien et plus elle n'a pas honte, elle n'a pas de pudeur, elle n'a rien. Comme les femmes qui se montrent comme ça, toutes nues, etc. Elles n'ont rien dans le cœur. Rien. Vide le cœur, rien. Ça que yani, ça ne leur dit rien qu'elle montre. La hawla wa la quwwata illa billah. Enfin, ensuite, Iblis a dit autre chose. Iblis a dit autre chose, Satan a dit autre chose de très important. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit, Allah Ta'ala a dit, et il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Regardez ici, comment Iblis, comment Satan est venu et avec quelle ruse, pour voir combien il a de ruse. Premièrement, qu'est-ce qu'il a dit là? Il leur jura, vraiment, je suis pour vous deux un bon conseiller. Premièrement, il a dit quoi? Il leur jura, on va en parler. Il a dit, vraiment. Il n'a pas commencé directement, je suis un bon conseiller. Il a dit, vraiment, vraiment, il faut me croire, pour me croire, vraiment, je suis un bon conseiller. Ensuite, il a dit, vraiment, je suis pour vous deux. Il n'a pas dit, je suis un bon conseiller pour vous deux. Non, il n'a pas dit, je suis un bon conseiller pour vous deux. Mais il a dit, je suis pour vous deux, un bon conseiller. Et sûrement que vous faites la différence, sûrement que vous faites la différence entre quand quelqu'un dit, je suis pour vous deux, un bon conseiller, et quand quelqu'un dit, je suis un bon conseiller pour vous deux. Non, il a commencé par pour vous deux. C'est comme s'il voulait dire, seulement pour vous. Non, je ne suis pas pour tout le monde, un bon conseiller, pour vous deux. Non, c'est comme quand on dit en arabe, tu dis, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il n'a pas dit na'budu Iyyaka wa nasta'in Iyyaka. Iyyaka, toi, il n'y a pas un autre. Toi, on adore. Toi, à toi, on demande de l'aide. Non, c'est pour ça que Shaitan est très rusé. Il n'aura pas dit je suis un bon conseiller pour vous deux. Il a dit je suis pour vous deux un bon conseiller. Quand on dit par exemple, quand je dis Karim est dans la chambre, ou bien je dis dans la chambre et Karim. Il y a une grande différence. Une grande différence. Non. Karim est dans la chambre, ça veut dire quoi? Ça veut dire Karim il est dans la chambre, mais il se peut qu'il y a avec lui Omar, Abdullah, Nassim, ils sont tous dans la chambre. Et quand je dis dans la chambre et Karim, ça veut dire qu'il est dans la chambre. Il n'est pas dans la cuisine ou là dans la chambre à coucher. Il est dans la chambre et Karim. Quand il va le blesser là. Satan, quand il a dit je suis pour vous deux un bon conseiller, il a été très rusé en parlant ainsi. Il voulait leur dire je ne suis pas pour d'autres, seulement pour vous deux. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Un bon conseiller. Je suis premièrement un conseiller. Premièrement, je suis un conseiller. Et ensuite, un bon conseiller. Attention, je ne suis pas un mauvais conseiller. Je suis un bon conseiller. Et avant tout cela, qu'est-ce qu'il a dit? Avant tout cela, qu'est-ce qu'il a dit? Et il leur jura. Et il leur jura. Subhanallah al-Azim. Il leur jura. C'est pour ça qu'il a été dit à Adam alayhi salam. On lui a dit, comment se fait-il que tu aies mangé de l'arbre, etc. Il a dit, je ne savais jamais et je ne croyais jamais qu'il se pourrait, ou qu'il se pouvait que quelqu'un puisse jurer en Allah tout en étant menteur. Naam. Adam alayhi salam, c'est la première fois qu'il a entendu quelqu'un jurer. Il a dit, je jure, hein, par Allah, que je suis pour vous d'un bon conseiller. Quand quelqu'un vous jure, Allah, surtout que c'est la première fois qu'on entend quelqu'un jurer, c'est pour ça que on dit que le croyant, on peut le trahir si on lui vient du côté d'Allah. Non, un croyant, dès que tu lui jures Allah, quelque chose comme ça, khlas, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a la foi dans son cœur et il sait que, quand quelqu'un jure Allah, que c'est quelque chose de très grave. Que c'est quelque chose de très grave. C'est pour ça qu'il y a, un hadith sahih, il y a un récit qui est authentique de Jésus, de Isa, alayhi salam. Je vais citer ici si je vais trouver. Naam, celui-là. On dit une seconde. Je le colle en arabe, donc c'est en français. Je le colle en arabe, donc c'est en français. Naam. Quand j'affiche comme ça quelque chose en arabe, vous cliquez sur la chose qui est affichée sur l'écran et vous appuyez CTRL-SHIFT à droite pour que ça vienne du côté droit, car l'arabe commence de la droite vers la gauche. Sinon, il y a des mots qui vont changer. Vous cliquez sur CTRL-SHIFT de droite, les deux à la fois. Je le mets maintenant en français. Je le mets maintenant en français. Excusez-moi. Non. À peu près, hein. Je l'ai traduit à peu près. Je l'ai traduit à peu près. Ra'a Isa ibn Maryam rajula yasriqu. فقال أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. فقال عيسى آمنت بالله كذبت بطاري. صحيح ابن ماجه 2102. عيسى عليه السلام جيزو a vu un homme voler. Un homme voler. Il lui dit tu as volé. L'autre a dit non. Par celui dont il n'y a de divinité que lui. C'est-à-dire par Allah. Par Dieu que je n'ai pas volé. Alors Isa, Jésus a dit j'ai cru en Allah. Et sur Dieu, et je démonte ma vue. Ça ne fait rien. J'ai vu avec mes yeux, mais puisque tu as juré, je vais dire que mes yeux n'ont pas vu, c'est moi qui me suis trompé. Non. Regardez le croyant, quand quelqu'un lui jure, par Allah, hein, il le croit. Et il peut être vite trahi. Pourquoi? À cause de la foi qu'il a. À cause de la foi qu'il a. Non. Ensuite, ça y est. Satan a dit aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Satan a dit ici dans ce verset qui va suivre, il a dit puis le diable le tenta en disant ô Adam, t'indiquerais-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Allah subhanahu wa ta'ala a montré dans ce verset que le shaitan, Satan, a dit aussi autre chose. On a vu plus haut, il a dit que Allah ta'ala, Allah n'a pas voulu te laisser manger cet arbre pour que tu ne deviennes pas un ange ni un immortel. Ici, il lui a dit autre chose. T'indiquerais-je l'arbre de l'éternité, c'est aussi la même chose, l'éternité, pour ne pas mourir. Et un royaume impérissable. Un royaume impérissable qui ne se termine jamais. Les ulama ont dit, les savants ont dit, Shaitan a un nez comme ça, un museau, assez long, et il vient, il se met sur la poitrine de la personne et avec son museau, il commence à essayer de fuir, c'est-à-dire à essayer de sentir ce qu'on a dans le cœur. Il essaie de voir quels sont les genres de tentations qu'on a dans le cœur. On a des tentations dans le cœur, on n'a pas les mêmes. Celui là, il a la tentation, les tentations de l'alcool, celui là de la drogue, celui là du vol, celui là de... et comme ça. Donc lui, il vient, il essaie de sentir ce qu'il y a dans le cœur. Ensuite, il commence à chuchoter. D'après, il a senti quels sont ses penchants. Quels sont ses penchants. Ici, il a su. Il a su que yani, cette personne-là, qui a été créée pour la première fois, sûrement voudrait qu'elle soit immortelle et qu'elle reste à vie et qu'elle aurait aimé posséder un royaume impérissable qui ne se termine jamais. Non. D'ailleurs, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dieu merci. Que quoi? Que tout le monde meurt. Que tout le monde est voué et forcé à mourir. Et qu'il doit mourir. Alhamdulillah. Pourquoi? Parce que si les gens pouvaient, certains pouvaient ne pas mourir, mais s'il y avait un médicament qui pouvait s'acheter pour ne pas mourir, sûrement qu'il aurait coûté. Sûrement qu'il aurait coûté des milliards de dollars. Des milliards de dollars. Il aurait coûté. Donc, il ne l'aurait acheté que X, X et Y. Non. Et cela ne mourrait pas. Oh. Donc, Alhamdulillah, tous on meurt. Tous on meurt. Tous. On sort du ventre de la mer. Non. On ne connaît rien. Et ensuite, on va rentrer dans la tombe avec un morceau de drap blanc. Non, un morceau de drap. Ni costume, ni cravate, ni rien. Tu vas rentrer, ni chien d'or, ni rien. Tu vas montrer avec, tu vas rentrer, pardon, avec quoi? Avec un morceau de drap blanc. Et ceux qui en effet rentrer avec leur chien d'or et leur gourmette, etc., bien sûr, ça ne va leur servir à rien. Ça ne va leur servir à rien. C'est pour ça que les ulama disent en islam, comme a dit Ibn Uthaymin, il a dit, par exemple, on est une famille et notre père, par exemple, est mort aujourd'hui. Et notre père, quand on va l'enterrer, on se rappelle qu'il avait un dentier en or. Il a dit, on ne l'enterre pas avec de l'or. Même si ce n'est pas un dentier, il a dit, même si ce sont des dents qui étaient collées, pas un dentier. En or, il a dit, on les enlève. On les enlève du mort parce que Allah Ta'ala n'aime pas que l'argent aille comme ça sans intérêt. Et va être mal. De l'or sous la terre. De l'or enterré. À quoi ça sert qu'il y ait sous la terre de l'or? Il a dit, sauf si on lui enlève les dents, on va lui faire des problèmes avec sa mâchoire. On va lui casser sa mâchoire, etc. Yani, pour le respecter, on ne lui enlève pas. Mais si ce sont des dents qui s'enlèvent comme ça facilement, il a dit, on ne l'enterre pas avec l'or. Pourquoi, comme je viens de dire, premièrement, l'or, on en a besoin. Deuxièmement, l'or, c'est pour dans cette vie, c'est pas pour la tombe. Et troisièmement, ça ne lui sert à rien qu'il parte chez Allah subhanahu wa ta'ala avec de l'or. Non, c'est pas comme croient les autres que dans certaines civilisations, comme ceux qui étaient au temps du pharaon, quand les gens mouraient, on les enterrait avec de l'or. On les enterrait et à côté d'eux, on mettait comme ça un petit coffre avec de l'or. Ils diront comme ça, le jour du jugement dernier, il pourra donner cet or contre quoi? Contre l'enfer. Pour ne pas rentrer en enfer, il donnera de l'or à Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah, est pauvre. On lui donne de l'or, Allah subhanahu wa ta'ala va être content. Il va dire, oh, toi tu m'as donné de l'or. Inch'Allah, donc toi tu ne vas pas aller en enfer. Alors que Allah ta'ala a dit dans plusieurs versets que s'il donnait tout l'or du monde et que si toute la terre devenait or et qu'on la donnerait, il n'accepterait pas. Man, que fait Allah subhanahu wa ta'ala avec l'or? C'est lui qui a créé l'or. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'or? Donc ici, vous avez vu la ruse de Satan, comment qu'il est venu et il a essayé de faire tomber notre père et notre mère dans la faute. Et malheureusement, ils sont tombés dans la faute. Maintenant, on va aller à Hawa et l'arbre. Hawa et l'arbre. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tous deux, Adam et Hawa, Eve, en mangèrent. Tous deux mangèrent de l'arbre. Alors leur apparut leur nudité. Ils se mirent à se couvrir avec des feuilles du paradis. Avec du feu du paradis. Donc tous deux en mangèrent. Alors ils se mirent à se couvrir avec quoi? Avec des feuilles du paradis. C'est dit maintenant dans l'explication, c'est dit, c'était Ève qui était la première à manger de cet arbre, et c'est elle qui avait incité Adam à manger. Non? Le premier des deux à avoir mangé, c'est la femme, c'est Ève, d'après beaucoup d'exégètes, d'après un hadith qui va venir. Non? Et c'est elle qui a incité Adam à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, une seconde, non, il a dit, voilà, ce hadith qui montre que c'est celle qui a mangé avant. Il a dit, n'était-il pas des enfants d'Israël, les viandes n'auraient pas été pourries. Non. Et n'était-elle pas Hawa, Eve, la femme n'aurait pas trompé son mari. Rapporté par Bukhari et Muslim. Rapporté par Bukhari et Muslim. Bukhari 3330 et Muslim 1470. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ça veut dire que si ce n'étaient pas les enfants d'Israël, la viande n'aurait jamais pourri. Comment cela? Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre aux enfants d'Israël le men ou le loi, comme c'est dans le Coran. Le men ou le loi. Le men, c'est un nom de tous les rizqin, hassanin yahtoulou min ghéritab. Allah Ta'ala faisait descendre chaque jour aux enfants d'Israël le men. Le men, c'est quoi? C'est tout bien. Tout bien. yani qu'on peut avoir sans fatigue. Allah Ta'ala faisait descendre tout d'en haut sans fatigue. Allah, tout ce qu'il voulait, descendait sur une table sans fatigue. Et ce loi, c'est un genre d'oiseau spécial. Il a une viande, yani, mashallah, si on mange, yani, on sent yani, les vrais délices. Mais Allah Ta'ala, quand il a fait descendre cette table avec le men ou ce loi, avec tout ce qu'on peut imaginer de bien et de délices à manger, il leur a fait une condition. Il leur a dit, mais ne cachez pas. C'est-à-dire, ils ont, comme on dit, par exemple, on achète, n'approvisionnez pas. Non. Mangez au jour le jour. Ne cachez pas dans le frigo, ne cachez pas dans les placards. Mangez au jour le jour. Je vous fais descendre chaque jour de la viande, des boissons, des fruits, tout ce que vous voulez. À une condition, ne cachez pas la viande, surtout la viande. Ne faites pas de provisions. Mangez, quand ça se termine, je vous fais descendre. Et bien sûr, les enfants d'Israël aiment beaucoup transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas lui obéir. Ils ont dit, alors nous, on va cacher la viande. On va aller s'approvisionner et cacher, je ne sais pas où, avec la glace, etc. Ils ont dit, on va cacher. Non. Alors que, jamais, jamais la viande que Allah subhanahu wa ta'ala le faisait descendre, ne changeait de goût ou bien de couleur. C'est-à-dire, elle pouvait rester comme ça des années et des années sans qu'elle devienne yani, immangeable. Non, sans qu'elle n'ait une mauvaise odeur. Alors, quand ils ont commencé à cacher, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné quoi ? Leur a donné un châtiment. C'est quoi ? C'est qu'il a rendu la viande, elle devient pourrie si tu la caches un ou deux jours comme ça, surtout sans frigo. Si tu n'as pas de frigo, tu la laisses un ou deux jours au soleil, ça elle est pourrie. Mais auparavant, quand il faisait descendre la viande, elle pouvait rester des années, tu la trouvais toujours la même. Naam, Allah l'avait. Et ça, c'est la règle, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala yu'amilu al-jani bimaqidi qasdih. Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte avec celui qui veut lui désobéir, il lui donne toujours le contraire de ses souhaits. Ceux-là, ils voulaient cacher la viande, Allah Ta'ala leur a donné leur contraire. Vous voulez la cacher, alors quoi? Alors elle va pourrir. Naam. Et ensuite, le hadith a dit, et si ce n'était donc la viande qui maintenant devient pourrie, c'est à cause de qui? À cause du péché de ceux-là, des enfants d'Israël qui ont fait ce péché et transgresser la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la femme, il a dit, et si c'était pas Hawa, la femme n'aurait pas trompé son mari. Si c'était pas Hawa, la femme n'aurait pas trompé son mari. Certains ont cru que ça veut dire que Hawa donc a trompé son mari, a trompé Adam. Et ils ont cru aussi l'a trompé en faisant la zina, en faisant le haram. Alors que ça, c'est vraiment, vraiment très grave. Celui qui pense une chose pareille, c'est vraiment, vraiment très grave. Pourquoi ? Car les ulama ont dit, quiconque dit une chose mauvaise sur un prophète, il est devenu kafir. C'est ça que Allah Ta'ala a dit, ya ayyuha alladhina amanu la tekounou que l'adina adou Moussa. Fabarra Allah mimma qalou kan ind Allah wa ya. Regardez, les enfants d'Israël ont dit seulement que Moussa, Moïse, ils ont dit que il ne veut pas se laver avec nous nus, donc il a des problèmes dans ses testicules, etc. Allah Ta'ala a fait descendre le Coran pour montrer que cela, c'est des fauteurs, et qu'ils ont fait des péchés de dire cela, et qu'ils n'avaient aucune maladie, alhamdoulilah. Donc, les ulama ont dit, on ne dit jamais d'un prophète quelque chose qui n'est pas bien. Parce que, de nos jours, jusqu'à de nos jours, certains, par exemple, quand ils racontent l'histoire de la vie de, comment il s'appelle, Ayyub alayhi salam, ils disent qu'il est tombé malade au point où il avait des vers qui sortaient de sa bouche, de ses yeux, de son nez, de ses oreilles, des vers qui sortent. Certains ont dit qu'il avait la lèpre, qu'il avait. Tout ça, c'est impossible. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'envoie, un prophète, il l'envoie dans un beau physique et un beau caractère. Non, une mentalité, un caractère, mashallah, et un physique, mashallah. Pourquoi? Parce qu'il lui donne un physique où il a des vers, il est sale, etc. Tous les gens vont fuir de lui. Moi, je ne vais pas m'asseoir devant un messager qui a une très mauvaise odeur et qui est en train de parler du dîme et les vers sont en train de sortir ses oreilles, son nez. Moi, je vais m'enfuir et je vais vomir. C'est impossible. Là, vous ne voyez pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien qu'il était comment et combien qu'il était propre. Toujours le siwak dans sa bouche, toujours en train de se peigner les cheveux, toujours en train de se laver, toujours en train, masha'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abi wa Ummi. Les sales, ce sont les autres. Les autres, les sales. Al-Muhim. Je voulais dire ici, ceux qui disent qu'un prophète a fait telle ou telle chose, il devient kafir, comme on dit les ulama. Et la même chose, ils ont dit, pour ceux qui parlent des mères des prophètes. Si quelqu'un dit, la mère de tel prophète a fait par exemple la zina ou l'adultère, il est devenu kafir. C'est dommage que dans certains livres, comme la Bible et la Torah, surtout la Bible, où il est dit que certains prophètes étaient des soulards, et que certains prophètes ont fait la zina avec leur fille, mais pas seulement avec une étrangère. Ils ont fait l'inceste avec leur fille. A'oudou billah, a'oudou billah, a'oudou billah. Naam. C'est pour ça que celui qui dit qu'une femme, une des femmes des prophètes a fait la zina, surtout s'il dit Aïcha radhiyallahu ta'ala anhu, tous les ulamas sont unanimes pour dire qu'il est kafir. Surtout Aïcha. Pourquoi? À cause du Coran qui est descendu spécialement pour elle, pour dire qu'elle n'a pas fait la zina, comme l'ont dit les hypocrites et les munafiqun et les kuffars. Elle n'a pas fait la zina. Naam, c'est le shaitan qui a choisi certains gens pour faire marcher cette chose sur leur langue. Mais elle, le Coran est descendu pour dire, elle n'a pas fait. Naam, quiconque, comme beaucoup de chiites, disent qu'elle a fait cette chose, donc ce sont des kuffars. Naam, ce sont des kuffars et ils n'ont pas d'excuses. Je reviens donc à ce verset pour montrer qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on a dit dans la, n'est-ce pas Ève, une femme n'aurait jamais trompé son mari. Si ce n'était pas Ève, une femme n'aurait jamais trompé son mari. Regardez ici, Allah quand il a dit, Allah a cité en parabole, pour ceux qui ont mécru la femme de Noé et la femme de Lot, elles étaient sous l'autorité de deux vertueux de nos serviteurs. Toutes les deux trahirent, et ils ne furent d'aucune aide pour ces deux femmes vis-à-vis d'Allah. Allah leur a dit, entrez au feu toutes les deux avec ceux qui y entrent. Naam. Ici, qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Toutes les deux les trahir. Les trahir, qu'est-ce que ça veut dire? Trahir l'autre et Noé. Les trahir en faisant la zina? Jamais. Elles ont trahi en ne croyant pas en Allah subhanahu wa ta'ala et au messager. Au messager Noé et l'autre. C'est une trahison. C'est la plus grande trahison. C'est plus que la zina. Ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala et en un messager, c'est la plus grande trahison qui puisse exister. C'est plus que une femme qui trahit son mari et fait la zina en cachette. Ça, c'est plus grave. Ne pas croire en Allah et en ses messagers. C'est ça, ici, la trahison. Que disent tout, bien sûr, tous ceux qui ont expliqué le Coran. Donc ici, dans le hadith, si ce n'était pas Ève, aucune femme n'aurait trahi, n'aurait trompé son mari. Ça veut dire, comment qu'elle a trompé ici Ève? Elle a trompé son mari en quoi? En l'incitant à manger. En lui disant, mange, si on va manger, on va devenir éternel, on va devenir comme ça. Vous savez, les femmes, quand elles commencent à rêver, ça ne s'arrête pas. On aura ceci, on aura cela, on aura de l'or, on aura des palais, on aura des servantes, des ceci, des cela. Donc, elle a trompé son mari. Si ce n'était pas elle, le hadith a dit, aucune femme n'aurait aussi ni trompé son mari en l'incitant à faire des choses qui sont à l'encontre de la sharia, qui sont à l'encontre de la sharia. C'est ça le vrai sens de ce hadith et aussi du verset. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui restent à dire. On les laisse Allah ta'ala pour la prochaine fois. Il y a exactement maintenant, le regret d'Adam, ensuite son expulsion du paradis, son regret, son expulsion, son repentir, ensuite comment il a été créé, ensuite comment il a été créé. Naam, je m'arrête ici, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Je vous donne aussi pour poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions, inshallah ta'ala. Comment, inshallah ta'ala, dans deux minutes, bi'idhnillahi azza wa jal, on se rencontre. Inch'Allah ta'ala, on commence sans perdre de temps. On va commencer par les questions, inch'Allah ta'ala, qui ont rapport avec le cours. Donc ceux qui n'ont pas le point rouge, quand ils reçoivent des questions qui sont pas, qui n'ont pas trait avec le cours, pour les laisser de côté jusqu'à ce qu'on termine le cours, on termine celles qui ont rapport avec le cours, ensuite vous m'affichez les autres. Abid dit tafaddal, tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala, tafaddal. Tu veux prendre le micro, Fadbal. Tu veux nous passer le salam avec le micro, prends-le.
Salam alaykoum wa rahmatoullah. الله تعالى وبركاته. جسي رسول الله. Est-ce que vous connaissez Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasulullah? Parce que c'est un devoir pour tout musulman qui croit en Dieu, qui croit en Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de connaître qui est Khadim Rasoul, et d'œuvrer pour lui. Parce que tout ce qui était comme travail pour le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Ahmadou Bamba l'a travaillé. Donc tous les paiements qu'on puisse avoir, du travail qu'on peut faire pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Cheikh Ahmadou Bamba Mbake Khadim Rasoulullah qui le détient en ce moment. Donc si veut quiconque veut son paiement dans l'au-delà doit œuvrer pour Cheikh Ahmadou Bamba Mbake Khadim Rasoulullah. Donc ma question est-ce que vous le connaissez? Voilà.
Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Est-ce qu'il y a du sang d'amour dans la salle? Est-ce qu'il y a du sang dans la salle? Bon, le R Palb 10 a posé une question. Moi, ça n'était pas très clair pour moi. Le nom qu'il a cité n'est pas très clair pour moi, mais je pense que Allah Ta'ala Alam, il a parlé de quelqu'un qui s'appelle Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmed ou quelque chose comme ça. Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a incité les gens à ce qu'ils doivent y aller. Suivre ce khadim du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien yani lui obéir ou là je ne sais pas quoi, je n'ai pas très bien compris car le son n'était pas très clair. De toute façon, je dirai très vite à mon frère et à mes frères les autres et mes soeurs qui m'entendent que En islam, il y a seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, il y a seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on doit suivre. Il n'y a pas une autre personne qu'on doit suivre, si ce n'est ses compagnons et les ulama, pour leur demander qu'a dit Allah et qu'a dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a quelqu'un qu'on doit suivre maintenant, c'est bien les ulama qu'on doit suivre, car ce sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je voudrais dire par là que il y a une grande innovation qui s'est beaucoup répandue chez beaucoup de musulmans, et ça arrive même des fois ici dans ma mosquée, où il est dit que on commence à donner, même, on donne, on sert ou quelque chose comme ça, aux gens, des quoi? Des polycopes, des feuilles comme ça, photocopiées, où il est écrit quoi? Il est écrit que voilà quelqu'un qui est Khadim Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui est le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Cheikh Ahmed, d'après ce qu'on nous donne comme ça dans les feuilles à dos, qu'on propage dans les mots, etc. Et qu'il a fait un rêve. Et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a parlé. Il lui a dit, dis aux gens que il faut m'obéir, etc. Et que quiconque ne croit pas en cette chose et ne fasse pas une photocopie 10 fois de cette feuille, il va lui arriver un grand problème. Et quiconque y croira et il a dit inshallah ta'ala, il propagera cette feuille, il lui arrivera beaucoup de bien. Donc, ensuite, ils font peur à certains gens en leur donnant des exemples. Ils leur disent X, comme ça avec des noms. X en Arabie Saoudite, X en Allemagne, X au Soudan. N'a pas cru en ce qu'il y a dans la feuille. Et il a été expulsé du travail et il a eu un accident de voiture, etc. Et autre, Y, a cru en cette chose et il a eu beaucoup de bien et on lui a donné un poste, mashallah, de travail, etc. Moi, je voudrais dire que quiconque croit en ces choses pareilles, ça veut dire qu'il a fait le shirk, il a fait ce qu'on appelle l'association, que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas si on meurt demain. Non. Car tout ça, c'est quoi? C'est une ruse des juifs. Ce sont les juifs qui ont écrit des choses pareilles et les ont fait propager entre les musulmans. Pourquoi? Pour ébranler ta aqida. Comme ça, tu as peur, si jamais cette feuille, tu ne fais pas de photocopie, tu as peur qu'il va t'arriver beaucoup de malheur. Alors, au lieu que tu attaches ton cœur avec Allah, tu vas l'attacher avec cette feuille et avoir beaucoup peur et ne pas dormir la nuit. Et au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala rizq, فَبْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقِ وَعْبُودُهُ وَشْكُرُوا لَهِ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Non, toi, tu vas attendre le rizq si tu vas faire la photocopie de cette feuille. C'est pas Allah qui va donner, mais si tu fais la photocopie. Alors que, si on devait faire la photocopie d'une chose, on ferait la photocopie du Coran. Je vais prendre le Coran, je vais en faire une photocopie et la distribuer. Ou alors je vais, Sahih al-Bukhari, en distribuer aux gens. Je leur distribue la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas la parole de quelqu'un qui n'a jamais existé et qui a fait un rêve, alors que le shaitan vient dans les rêves, il joue avec les rêves. Je ne vois pas pourquoi les musulmans ne veulent pas se réveiller, et c'est pour ça que les gens ont tous avancé et nous on recule à cause des innovations et à cause de notre ignorance dans le din. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous apprenne son din, non? Et qu'il attache nos cœurs avec sa sharia. Abou Bilal, ta fadla. Naam, Athman, barakallahu fik. Ensuite, je ne vois pas, on devait parler de questions qui ont un rapport avec le cours. Oui. Abou Bilal, salam alaykoum. Est-ce que cette arbre existe toujours? Et quand Shaitan a dit à Adam qu'il goûte à l'arbre de l'éternité, était-il mortel alors qu'il était au. Si ce n'est pas terminé. Alors qu'il était au paradis, pouvez-vous me donner des renseignements sur Salman Laouda? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Salam alaykoum. Est-ce que cette arbre existe toujours? Et quand Shaitan a dit à Adam. Il goûte à l'arbre de l'éternité. Est-ce que cet arbre existe toujours? C'est un arbre que personne ne sait. C'est quel arbre exactement? Personne ne sait. C'est quel arbre exactement? Certains ont dit le figuier, le palmier, le. Tout le monde, chacun a dit d'après ce qu'il avait comme argument devant lui. Mais personne ne sait exactement quel est cet arbre. C'est pour ça que on ne peut pas savoir, si vraiment cet arbre existe toujours ou pas. Ensuite, quand Shaitan a dit à Azim qu'il goûte à l'arbre d'éternité, était-il mortel alors qu'il était au paradis? Ça, je n'ai pas compris. Était-il mortel alors qu'il était au paradis? Même le Shaitan ne savait pas quand il a créé Adam, personne ne peut savoir combien va vivre cette personne. Ensuite, quand il l'a vu, car il est resté 40 ans en train, l'a laissé 40 ans en argile. Il passait chaque fois devant lui le shaitan, et on va voir dans le prochain date qu'il rentrait par sa bouche, et même sortait son derrière, et il disait que celui-là, je le gagnerai, je le battrai, etc. Parce qu'il ne peut pas contenir ses tentations, etc. Donc, il a dû déduire qu'il va mourir un jour. C'est pour ça qu'il a voulu. Il l'a rusé en lui disant, je vais te montrer quelque chose qui te permet de ne pas mourir. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Pouvez-vous me donner des renseignements sur Salman Laouda? Et si celle-ci doit-on le suivre? Salman Laouda, il ne faut pas le suivre. Il faut s'éloigner de lui au maximum. C'est quelqu'un qui a la aqidah d'Ikhwan. Quoique, il a le minhaj d'Ikhwan. Quoique, il a écrit sur la aqidah certaines choses bonnes, comme sur l'Asha'ira, etc. Mais l'essentiel, c'est le minhaj. Salman Aouda et l'autre, le deuxième, comment il s'appelle, il est très connu. Les deux étaient, je crois, en prison. Salman Aouda et Safar al-Hawali. Ces deux-là, s'ils sont à l'est, toi, essaye d'être à l'ouest, Inch'Allah. Abu Maryam 22, tafadlal. Comment je t'appelle? Abu Talib 2, est-ce que tu es là, Abu Talib? Salam alaikum. Pouvons-nous dire que les histoires des prophètes et messagers, comme c'est cité dans le Coran, sont une des preuves de la prophétie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je tenais à rajouter que le frère Al-Bdis a des propos très graves, Cheikh. Taïb, Al-Bdis, je ne le connais pas. C'est la première fois que je l'entends parler. De toute façon, franchement, il me fait de la peine. Il me fait de la peine d'être dans ce minhaj. Il croit toujours au. Ça doit être quelqu'un qui est soufi. Il croit toujours au rêve et au Cheikh Mohammed, au Cheikh Ahmed, au Cheikh Islam, au Cheikh Ben. Nous, tout ça, on n'a pas dans l'islam. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons et les ulamas. Les ulamas, on les aime tous, ce sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on ne vénère personne. Non. C'est le mohim. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il l'aide et qu'il le guide. Et qu'il lui montre la vérité et qu'il enlève la poussière de ses yeux. Pour qu'il revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il suive le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aucun autre. Naam. طيب نعم واسمه comme tu dis les histoires des autres prophètes c'est une des preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam نعم c'est une des preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ami personne ne connaît de ces prophètes que ce que Allah apprend à notre prophète alayhi wa sallam car ce sont des choses qu'on ne peut pas connaître par intelligence quelqu'un est très intelligent il va nous raconter la vie de Ibrahim ou là de Jésus ou là il peut pas il faut qu'il ait quelque chose qui soit venu de Allah subhanahu wa ta'ala pour que et que bien sûr Allah la donne à son prophète pour que on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Regardez, on a parlé de l'arbre du paradis. Personne ne peut dire quel est cet arbre. Pourquoi? Parce que Allah ne l'a pas dit, le prophète alayhi salam ne l'a pas dit. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal Abu Abdullah al-Firansi. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يجازيك نعم الله يجازيك أنت أيضا يأتي لها غيسي في المغياج بآدم وحواء non il n'y a pas نعم s'il y a si tu as lu quelque part c'est que ce n'est pas vrai Nam, il n'y a pas un récit comment ça s'est passé exactement. Nam, la plupart, d'ailleurs ça va venir je crois dans le prochain verse, la plupart disent que Allah subhanahu wa ta'ala a donné une particularité à Hawa, comme il a donné la particularité à Adam de l'avoir, d'avoir fait sortir Hawa de son aisselle, yani de la côte, il a aussi donné une particularité à Hawa d'avoir deux ventres à l'intérieur. Et dans le ventre droit, par exemple, elle a un garçon. Dans le ventre gauche, elle a une fille et ils peuvent se marier entre eux. Naam, je ne sais pas si on appelle ça un ventre, mais je crois, inchallah ta'ala, que vous avez compris ce que je veux dire. Naam. Om Raniya, ta fadlali. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Salam alaikum wa rahmatullah alaikum salam wa barakatuh. Je vous prie de m'excuser mais ça n'a pas de rapport avec le cours. C'est pour vous redemander si vous avez lu mon mail concernant la Hijra. Comme Raniya, Inch'Allah, Naam. Je viens de vous la renvoyer encore une fois dans vos boîtes. Je l'ai lu. Inch'Allah ta'ala, demain tu auras la réponse. Naam. Je l'ai vu, j'ai vu que sans Wasmo. Ton mail est arrivé, je crois qu'il est arrivé hier ou avant-hier, j'ai oublié. Inch'Allah ta'ala, demain, tu auras Inch'Allah ta'ala la réponse. Naam, par bail. Si tu veux par Paltok, encore c'est mieux. Mais demain, j'ai pas d'arf. Si tu veux par Paltok, tu auras ton entrée demain. Si tu veux par mail, j'écrirai Inch'Allah ta'ala demain. Alors choisis maintenant qu'est-ce que tu veux, Inch'Allah, ta'ala. Talib Ilm, tafadhal. Tayyib, par partout, jazakillahu khayran. Comme ça, Inch'Allah, ta'ala, même moi, yani, ça me laisse un peu, ça me donne un peu de liberté. Naam, tu peux enregistrer, Inch'Allah. Talib Ilm, tafadhal. صحيح لي لا السلام عليكم السلام ورحمة الله quand Adam et Hawa ont eu leur deuxième fils comment et c'est la descendance du reste des humains barakallahu fikoum quand Adam et Hawa ont eu le deuxième fils c'était la descendance du reste des humains. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était dans le prochain darf. Et on montrera que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Hawa deux ventres. C'est-à-dire que ceux qui sont dans ce ventre, naam, sont des étrangers à ceux qui sont dans l'autre ventre. Le garçon qui est, par exemple, dans le ventre droit est un étranger à celui à la fille qui est dans le ventre gauche. Comme ça, ils peuvent s'épouser. Inch'Allah ta'ala bi'idna azza wa jal, ça viendra dans le prochain dars. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas étonnant. Ça, ce n'est pas étonnant que Allah ta'ala ait créé Adam de rien. Il a créé Isa alayhi salam, Jésus, d'aucun père. Il a créé Hawa, Ève de Adam. Et comme ça, il crée des descendants, des progénitures, sans yani, que ça soit étonnant ni difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Abu Harun, tafadlal. Cheikh Bachir, tafadlal. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Il y a des personnes dans la rampe qui demandent si nous sommes des wahhabis et affirment que l'Ibn Taymiyyah est un hizbi. Pour expliquer, on aimerait savoir quel est notre minhaj. Ah, jazakallahu khayr. Il y a des personnes là-haut qui demandent si nous sommes des wahhabites. Nous sommes des wahhabites. Moi, je suis un wahhabite, c'est-à-dire que j'ai été créé par le wahhab. Moi, j'ai été créé par le wahhab qui m'a créé et qui m'a donné des enfants. Wahhabani, wahhabani nafsi, wa awladi. Non, j'ai été créé dans ce wahhabite. Sinon, je ne suis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne rentre dans aucune appellation. Naam. Je suis. Qu'est-ce qu'il y a dans le camp? Et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec compréhension dans le panier. Ce n'est pas avec compréhension. Moi, je suis faible. Moi qui suis ignorant, je vais traiter le camp de ma tête. Je vais réparer. Je vais expliquer aux gens ou même expliquer à moi-même. Donc, moi, je me base sur l'éducation des self-salah, des compagnons, leurs enfants, et les grands ulamas qui sont venus après, qui n'aqadat imamatuhum bil ijma. N'aqadat imamatuhum bil ijma. Naam. Et quand il dit que Ibn Taymiyyah c'est un hizbi, ça veut dire, je dis à cette personne d'aller revoir tes informations. Ibn Taymiyyah, Cheikh ul Islam, qui est rentré en prison à cause qu'il n'a pas c'est des fatwas qui marchent avec le madhab. Il est rentré en prison justement à cause de cela. Parce qu'il a contrarié le madhab. Naam. Donc je demande à cette personne qu'elle aille yani, réviser un peu et apprendre un peu le din. Naam. Parce que je la vois assez loin. Et Inch'Allah ta'ala, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui ouvre son cœur encore plus. Et lui enlève la poussière de ses yeux. Et l'aide à ce qu'elle soit dans le minhaj, yani, sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiallahu ta'ala anhum. Naam. Abdel Qiyoum, tafadali. Salam alaikum salam, shoutlaw barakallah, vous récompense un mille. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas, j'ai pas bien compris en ce qui concerne les chiites qui incitent Aïcha, radiallahu ta'ala. On peut dire deux qui sont coupables pour les mensonges qu'ils inventent sur elle, barakallahu fikum. Naam, toute personne qui dit que Aïcha est une fornicatrice, c'est un kafir. Sauf c'est quoi? Sauf s'il y a une excuse, par exemple, il est fou, ou là c'est un malade mental, ou là il n'est pas pubère, ou là il ne sait pas ce qu'il dit, ou là, comme ça, des excuses. Mais s'il sait que voilà le Coran dit, et lui dit non, elle a fait la fornication, tu lui dis voilà le Coran ce qu'il a dit, il dit non, celui-là c'est un kafir. Pourquoi? C'est pas parce qu'il a dit Aïcha a fait seulement, mais parce qu'il a dit à Allah, je ne crois pas en son Coran. Ton Coran dit que Aïcha n'a pas fait, moi je dis elle a fait. Les savants que je connais ont dit elle a fait. Moi je ne suis pas le Coran. Je suis ce que disent les gens. Celui-là c'est un kafir. Et on ne doit pas avoir de doute que c'est un kafir. Inch'Allah ta'ala. Naam. Maintenant, s'il y a des vieux, des vieilles comme ça qui suivent n'importe qui, ne savent pas ce qu'ils disent, etc., Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bihim. Moi, pour moi, c'est un kafir. Et peut-être Allah l'excusera le jour du jugement dernier. C'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, quiconque ne veut pas prendre ce qu'il y a dans le Coran et il n'a pas d'excuse, je dis bien, il n'a pas d'excuse. Quelqu'un de conscient, quelqu'un qui sait ce qu'il dit, quelqu'un qui est tubeur, quelqu'un qui ne veut pas, celui-là c'est grave pour lui, c'est vraiment grave. Non. Al-Muhim, la voix des tueurs, Fadal. Je rappellerai à Oum Abdel Qayyum, je te rappellerai seulement que quand quelqu'un dit que Aïcha a fait la fornication, cela entraîne par conséquent, à part que j'ai démenti le Coran, hein, cela entraîne aussi quoi? Cela entraîne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un, yani quelque chose de pas bien, comme a dit Allah ta'ala, al-khabithat ou al-khabithin. نعم الطيبات للطيبين الطيبات والطيبين الطيبان والطيبات الطيبات للطيبين والطيبون الطيبات والخبيثات والخبيثين والخبيثون الخبيثات طبعا لكم وصفاق الخبيثين ensuite il a dit أولئك مبرؤون مما يقولون نعم donc quand il a dit الخبيثات للخبيثين ça veut dire si Aïcha est une khabitha si elle a fait la zina est une khabitha أعوذ بالله. Donc son mari c'est un khabith, a'oudou billah. Il n'y a pas plus kufr que cette chose. Ici on me dit, c'est pas deux ventres, mais deux ovaires. Pour qui pourras-tu lui transmettre barakallahu fik. Le livre d'où je vais lire, il a dit que c'était deux ventres. Il n'a pas parlé d'ovaires. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, la sœur me donnera des. D'où elle a pris cela. D'où elle a pris ces choses, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fi moi, inni uhibbuka fillah. Ahabbaka alladhi ahbabtani lahu. Shams, tafaddal. Maintenant, si c'est des questions au sujet, ça ne fait rien parce que on est sorti de l'autre et il ne reste pas beaucoup de temps. عبد الله تفضل لي. السلام عليكم. Il y a une fille qui cherche à se convertir à l'islam. Elle a lu le livre des prophètes, عليه الصلاة والسلام. Elle me demande pourquoi le nom d'Adam n'est pas mentionné. بارك الله فيكم. C'est impossible que le nom d'Adam ne soit pas mentionné. Elle a dû lire un livre, yani, qui n'est pas très conseillé. Je ne sais pas quel livre elle a dû lire. C'est impossible que le livre, que Adam, le premier prophète, il ne soit pas mentionné. Non. Adam, c'est le premier prophète, et Noé, c'est le premier messager. Donc je ne vois pas pourquoi il n'y a pas dans ce livre Adam. Déjà, ce livre me fait des doutes. Je voudrais bien savoir qui a écrit ce livre. Car on ne lit pas quel livre. Non, on doit lire un livre, à condition que celui qui l'ait écrit soit un savant et quelqu'un de fiable. C'est pas comme maintenant les gens d'Europe, etc., qui vont étudier un peu l'islam à la Sorbonne, ensuite ils vont écrire des livres sur l'islam. Alors qu'ils ne comprennent même pas l'arabe bien. Non. L'arabe, ils ne comprennent même pas bien. Et ils vont dire, voici des choses, ce sera plein de fautes et de choses qui ne sont pas vraies. Non. Si cette sœur qui veut se convertir a des difficultés, a des choses qu'elle ne peut pas comprendre ou là, Inch'Allah Ta'ala, elle peut rentrer en contact avec moi ou avec des sœurs, comme elle veut. Elle peut rentrer en contact avec moi. Tu lui dis comme ça, Omar Abdillah, si tu connais cette sœur. Elle peut rentrer en contact avec moi pour les questions qui lui paraissent assez difficiles, ou les choubouettes, les ambiguïtés qu'elle a. Ou bien je l'oriente vers une des sœurs de la salle qui, Inch'Allah Ta'ala, a assez de ilm pour lui répondre. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Je me demande, lui, quel conseil lui donner. Quel conseil je lui donne? Je lui donne les conseils de ne pas lire n'importe quel livre. Elle lit les livres des savants fiables. Ce ne sont pas les moustachriqoun. Je ne sais pas comment on appelle en français les moustachriqoun. Il y a des Européens, etc., qui ont fait des études sur l'islam sans même devenir musulmans. Il y a beaucoup d'Européens, sans devenir musulmans, ont écrit beaucoup de livres en islam. On les appelle moustachriqoun. Ceux-là, il n'est pas conseillé de lire leurs livres. Parce que lui-même, d'abord, il n'est pas musulman. Et deuxièmement, il est nouveau. Il est nouveau. Il va dire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies sans le vouloir. Il va beaucoup se tromper dans ses connaissances. Il faut lire les livres des ulama, des savants, etc. Donc tu lui dis, Inch'Allah Ta'ala, que ce livre, s'il ne cite pas Adam, c'est que c'est grave. Comment sait-il qu'il ne cite pas le premier messager? J'ai même peur que, Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, qu'il dise qu'on ne descend pas de Adam. C'est pour ça qu'il n'a pas cité. C'est-à-dire qu'il dit qu'on ne descend pas de Adam. J'ai bien peur de cette chose. Allah subhanahu wa ta'ala, Adam. Les orientalistes. Cher le frère, la voix des pieux me dit que vous n'avez pas répondu à sa question. Peut-être, j'ai pas remarqué sa question. Je vais essayer de monter un peu pour la chercher. Ça y est, j'ai pas vu sa question. Ah, ça. Salam alaikum. Je sais que Adam s'est repenti pendant 70 ans. Et Allah l'a pardonné. Mais qu'en est-il pour Eve? Si elle repentira, si elle était pardonnée, barakallahu fik. Naam. Il n'y a pas quelque chose de solide et de vrai qui dit que la période du repentir de Adam était comme ça, de 70 ans. Yani, c'est écrit comme ça, 70. Le mot 70, le temps 70, n'existe pas basé sur quelque chose de solide. Mais sache qu'il a fait le repentir et Hawa aussi a fait le repentir. C'est dans le Coran. Qala bala, qala, les deux. Zalamna anfusana. C'est-à-dire les deux. Les deux ont dit. C'est pour ça que, si tu lisais, tu revenais vers le verset, tu trouverais que c'est écrit que les deux ont fait bi'idnillah ta'ala le repentir. Et ce n'est pas un seul. Ce n'est pas un seul qui a fait le repentir, mais les deux. Naam. D'après l'article, ou là le pronom, pardon, d'après le pronom. Naam, Rabbana, zalamna anfusana. Il n'y a pas dit zalam tout neuf, c'est zalamna anfusana. Tfadl, l'akhada, qui sait vous faire toto, tfadl. Peut-être qu'il n'est pas avec nous. Jitmir Salafi, tfadl. Jitmir, tafadl. Il n'est pas là tout. Malik. Salafi Ismail 59, c'est un fadal. Salafi Ismail 59. Maintenant, j'ai dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais une question à vous poser, mais je n'ai pas réussi à vous trouver, ça me précise. Assalamu alaikum. Quel âge avait Adam lors de sa création? C'est une joie. Pourquoi ne vivons-nous pas autant que Adam? Y a-t-il une explication? Naam, je vais te répondre, Inch'Allah ta'ala. Je vais te répondre, il y a une explication. Quoique normalement ça allait venir dans le prochain daf, mais ma'alif, je vais te répondre. Mais attends une seconde que je termine avec Benzia. Il a dit, sachant que je vous précise, ma question est en personnel et familiale, donc je ne peux pas vous poser en public. Pouvez-vous accepter de me prendre en PV, barakallahu fik, excuse-moi encore. Benzia, la fois passée, quand j'ai fermé la salle, je me suis rappelé qu'on devait avoir un PV, mais c'était trop tard. C'était trop tard quand j'avais rappelé, j'avais fermé la salle. C'était trop tard. Donc, j'ai dit à une autre personne, je ne me rappelle plus. Je lui ai dit, où est Benzien, comment on fait maintenant pour te contacter. Et on n'a pas pu. Aujourd'hui, Inch'Allah, avant de quitter, je clique sur ton pseudo pour ouvrir une fenêtre. Inch'Allah ta'ala, on restera ensemble un certain bout de temps après le daf, Inch'Allah ta'ala. Alhamdulillah. Donc, je reviens à Jetmir. Quel âge avait Adam lors de sa création? Non. Et était-il jeune ou vieux? Quel âge exactement? Adam alayhi salam, ce que je sais de lui, c'est que quand il est rentré au paradis, il faisait 30 mètres de hauteur. 30 mètres. Non. 30 mètres de hauteur il faisait. Son âge exactement je ne sais pas, mais il faisait 30 mètres de hauteur et il a vécu 1000 ans. Il a vécu 1000 ans. Et depuis ce jour, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis ce jour et chaque yani progéniture qui va venir, chaque yani peuple qui va venir va descendre de l'âge, et aussi descendre de quoi? Descendre de la taille. Son âge va rétrécir, et sa taille va rétrécir. Car, plus on est haut, plus on est grand de taille, plus c'est convenable qu'on vive beaucoup. Quelqu'un qui fait 30 mètres, disons pour nous c'est un géant. Un géant, il ne va pas vivre un an ou deux ans, il va vivre 1000 ans, 800, 1500, c'est comme ça. Et Nuh, alayhi salam, Nuh, la da'wa seulement, il a fait 950 ans. De da'wa seulement. Donc, combien a-t-il vécu? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que plus vous allez vers la fin du monde, yani, plus votre âge va rétrécir. C'est pour ça qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'âge de ma nation, c'est entre 70, 60 et 70. L'âge de ma nation, c'est entre 60 et 70. Et peu le dépasse. Donc, vous voyez que on rétrécit question de taille et on rétrécit question d'âge. Maintenant, tu ne peux pas trouver quelqu'un, par exemple, qui fait 3 mètres, quelqu'un qui fait 5 mètres. Un homme ou une femme, c'est impossible. Or, autrefois, il faisait 30, ça descendait 25, 20, 15, 14. Et maintenant, on est à combien? 1 mètre 60, 1 mètre 70, 1 mètre 80. un maximum 1m90, 2 mètres maximum. C'est la même chose l'âge. Car quoi? Car c'est un délire qu'on va vers la fin. Et comme la bougie, il commence à fondre. Elle faisait, mashallah, 10 cm et elle descend jusqu'à ce qu'elle fasse 2 ou 3 cm. Ensuite, il n'y a rien. Maintenant, nous, on est comme la bougie, on est en train de descendre. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Naam. قم حفظها بالصفة الضالية والله سبحانه وتعالى أعلم يكويش طابعه وعليكم السلام ورحمة الله. J'ai mon ami qui a trouvé chez ses parents des trucs pour faire du sour. Elle demande qu'est-ce qu'elle doit en faire pour s'en débarrasser par ce l'offre. Comme naam, ces choses-là, elle doit les défaire, les ouvrir et les défaire en lisant dessus, par exemple, en crachant dessus. Il y a encore une autre façon, c'est de prendre par exemple un petit récipient ou une casserole ou n'importe quoi, de mettre un peu d'eau à l'intérieur et de lire, d'abord cracher sur cette eau et de lire قول والله قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس de lire par exemple être coursé et d'ouvrir ce qu'il y a et le jeter à l'intérieur. Mais je conseille yani que quelqu'un avant qu'il fasse cela qu'il soit inshallah ta'ala assez pieux et qu'il soit avec le wudu et qu'il lise lui-même être coursé avant de toucher à ces choses bi'idhnillahi azza wa jal. Voilà inshallah ta'ala la réponse. Pour Samira tafaddali. C'est une bid'a de regrouper ses deux mains et de les lever vers le ciel lorsqu'on fait des doigts. Ou si lors de la salat, quand on fait tahiyyat. Et qu'on arrive à shahada, doit-on laisser l'index redresser ou continuer à le tourner. Quand on fait des doigts, justement on groupe, on regroupe ses deux mains. Mais on ne les lève pas vers les ciels. On les lève vers les ciels quand on fait par exemple salat l'istisqa pour faire tomber la pluie, on les ouvre. Dans ce cas, on les ouvre bien et on lève les mains jusqu'à ce que nos aisselles, jusqu'à ce que les gens puissent voir nos aisselles. Et on lève les mains aussi quand on fait l'ibtihal. Et quand on fait un doua, on les groupe, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, on les groupe comme ça et nos deux mains sont en face de nos yeux, en face de la qibla. On ne lève pas vers le ciel, non. En face de la qibla, on met nos deux mains en face de nos yeux, en face de notre bouche, de notre nez, les deux mains groupées comme ça devant nous. On fait des doigts, bi'idhnillahi azza wa jal. Quand on fait la tahiyyat, tahiyyatullah, zakiyyatullah, on doit, bi'idhnillahi ta'ala, pointer le doigt vers la qibla et ce n'est pas le tourner. Ce n'est pas le tourner. Je dis bien, on ne le tourne pas de gauche à droite. On le lève du haut vers le bas. Du haut vers le bas et non pas de gauche à droite. Naam. On le lève du haut vers le bas et on le regarde, on fixe. On fixe le doigt. On fixe le doigt quand on est en train de bouger doucement. Doucement, comme ça on le bouge. Et on reste en train de le bouger jusqu'à ce qu'on dise salam alaykoum. Parce que certaines personnes ne le bougent pas du tout. Et certaines personnes le pointe seulement, il le bouge quand ils disent Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad Rasulullah. Ensuite, il le baisse. Naam. Et certaines personnes, je les ai vues, le bougent en commençant. Tahiyatullah, Zakiyatullah, ils bougent. Dès qu'ils arrivent, Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad Abdur Rasulullah, ils le baissent, ils ne le bougent plus. Et ils terminent, Allahumma salli ala Ibrahim, ala Ibrahim, sans le bouger. Tout ça, c'est faux. La sunna, depuis que tu t'assois pour faire le tashahud, tu pointes ton doigt, l'index, vers la qibla, tu le regardes avec tes yeux, tu le bouges du haut vers le bas, et tu ne t'arrêtes pas de bouger jusqu'à ce que tu dises « Salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah ». Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Tafadlal Nathan 237, tafadlal.
Wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh, barakallahu fikoum. Ben voilà, j'aimerais bien donc... vous posez deux questions, mais j'y vais très très vite. Parce que je sais bien que dans la Bible, d'après ce que nous m'ont enseigné, que Allah Azza wa Jalla, il a créé le monde en 6 jours. Ok? Mais on dit aussi que le 7e jour, Allah Azza wa Jalla, il a pris un jour de repos. Alors, moi, je voudrais bien connaître votre avis personnel à ce sujet, cher. J'aimerais bien comprendre ce que dit le Coran à ce sujet. Et en ce qui concerne ma deuxième question, vous avez parlé, si je me souviens bien, vous avez cité un passage dans votre taf de samedi dans lequel vous avez parlé du sida. Alors, j'aimerais bien vous poser une question à ce sujet d'un point de vue religieux, car chez nous en Europe, dans les écoles ici, on nous enseigne que pour se protéger du sida, on doit mettre comme ça des préservatifs et que la femme, elle doit donc avaler, si on peut dire comme ça, une pilule ou bien des pilules justement pour éviter justement qu'elle ne tombe enceinte. Alors, d'après ce que je sais, le pape Jean-Paul II, donc le pape des chrétiens, lui, il était contre les préservatifs et tout ça. Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que pense l'islam à ce sujet, que dit l'islam et le Coran à ce sujet. Barakallahu fikoum.
Fika barakallahu, alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Fi sawt. نعم في صوت. نعم أخي إسماعيل، الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. الله سبحانه وتعالى ne se fatigue jamais. Il ne sait pas ce que c'est. يعني ما part une chose qui s'appelle la fatigue. Et ce n'est pas comme disent les chrétiens ou les juifs qu'il a pris un jour pour se reposer. Les chrétiens disent il a pris le dimanche et les autres disent il a pris le samedi pour se reposer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa laqad khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyam wa ma msana min lughub. Et on a créé les cieux et les terres et ce qu'il y a entre eux en 6 jours et aucune fatigue n'a de prise sur nous. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala ne se fatigue pas, ne dort pas, ne somnole pas, ne urine pas, ne boit pas, ne mange pas, ne crache pas, ne... Ceux-là qui ne connaissent pas Allah croient, comme j'ai dit hier, que c'est un géant comme ça, etc. Mais ils se fatiguent comme nous, etc. Ceux-là, comme a dit Allah Ta'ala, ma qadarullah qadri. Ceux-là, ils n'ont pas connu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni lui ont donné sa vraie valeur. Ils ont comme ça, ils ont des images dans leur tête. Même chacun d'eux imagine Allah, yani Dieu, d'après l'image qu'il a dans sa tête. Celui-là, il imagine c'est un géant, l'autre, il l'imagine avec des cheveux blancs, l'autre, il l'imagine avec des yeux verts, l'autre, il... Comme ça, ils ont des images, chacun a un portrait devant ses yeux. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. En ce qui concerne la deuxième question, je ne vois pas, yani, comment te répondre, puisqu'en islam, tu sais bien que la zina est interdite, la fornication est interdite en islam. Or, ceux qui prennent les préservatifs, etc., c'est donc qu'ils vont faire la fornication. Hein? Mais qu'est-ce que zina? Mais qu'est-ce que la zina? La zina, c'est quand quelqu'un n'est pas marié avec une femme et il fait avec elle ce que fait quelqu'un quand il se marie. C'est ça la zina. Faire, quand il s'accouple avec une femme, dans le haram, l'adultère. Naam, l'adultère. Naam. Donc, bon, l'adultère, E-R-E. Un moyen. En islam, il n'y a pas cela. En islam, on a la femme, yani, on a sa femme, ou là on a Moukliyamin. Moukliyamin qui n'existe pas maintenant, c'est dans les guerres, etc. Mais il n'est permis en aucun cas à un homme de faire un rapport conjugal avec une autre personne qui n'est pas sa femme. En aucun cas. C'est l'un des grands péchés. Donc, je ne vois pas l'utilité des préservatifs. Sauf dans le cas où, par exemple, il devait se passer des naissances. Il devait se passer des naissances, il dit, moi, je vais mettre un préservatif juste pour se passer des naissances. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, c'est permis. Mais dans un autre cas, je ne vois pas comment on aurait besoin d'un préservatif. Donc, les préservatifs, c'est pour ceux qui font l'adultère et pour ceux qui n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, il y a un grand châtiment qui les attend pour se protéger justement. C'est pour ça que les préservatifs, car le shiba, naam, c'est ce que je veux dire. Justement, ils veulent faire, naam, ils veulent faire la fornication, ils veulent faire le haram et ils ont peur. Ils ont dit, on a peur du sida, alors on va prendre des préservatifs comme ça, on ne peut pas avoir le sida, mais Allah subhanahu wa ta'ala est bil mirsad. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de voir ce qui se passe et il va leur donner un châtiment ou une autre maladie qui ne leur est jamais passée par l'esprit. Hada, sans dire ce qui les attend demain quand ils vont mourir et rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai dit déjà une fois que ceux qui font la zina, ils ont spécialement un feu qui leur brûlera les parties intimes. Naam, à part le grand feu de Jahannam et de la fournaise, à part le grand feu de l'enfer, il y a un feu à l'intérieur de l'enfer, comme c'est dans un hadith, qui ressemble à un four, comme ça, qui sort de la terre et va spécialement aux parties intimes pour les brûler. Et vous savez, tout le monde sait, les femmes et les hommes savent que les parties intimes, ce sont les parties les plus sensibles, questions de feu par exemple. Naam, questions de feu pour l'homme ou pour la femme. Les parties intimes, ce sont les plus sensibles. Imaginez un feu qui brûle là-bas. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyah. Tafadlal Sma'in. Sma'in B, tafadlal. Naam, la question où est-ce qu'elle est? J'aurais aimé savoir un chat, Inch'Allah, si les devoirs envers les parents dits balètement étaient les mêmes que ceux des parents biologiques. Sinon, sur quel devoir y a-t-il divergence? La personne concernée vit avec ses parents balètement et aussi chers sont fiers au tafsir, que sont détaillés avec des livres. Qui sont détaillés avec des livres ou des livres non vérifiés. Les tafsirs, dans tous les livres en islam, je vais te donner le micro, attends une seconde. Dans tous les livres en islam, on n'a pas le droit de prendre quelque chose sans connaître son délil. Il faut que son délil, premièrement, soit connu et soit vérifié. Non, ça ne suffit pas que tu dises il y a un hadith qui a dit ceci ou cela. Il faut me dire où se trouve le hadith et est-ce qu'il est sahih et est-ce qu'il est authentique. Il y a des milliers de hadiths qui ne sont pas vrais. En islam, quand tu dis quelque chose, il faut que tu sois sûr, naam. Voilà, vous pouvez retourner telle page et tel tome, et encore le récit que je viens de citer par exemple, il a été authentifié par le savant X et le savant Y. C'est comme ça. Quant à la première question, je n'ai pas bien comprise. J'aurais aimé savoir si les devoirs envers les parents dits d'allaitement étaient les mêmes que ceux des parents biologiques. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Je n'ai pas bien comprise, David. S'il veut dire, je réponds d'après ce que j'ai compris. S'il veut dire, est-ce que les parents biologiques, est-ce qu'on doit aussi, les parents d'allaitement, est-ce qu'on doit avoir les mêmes devoirs qu'envers eux ou là non, je dirais il y a des choses où c'est les mêmes choses et il y a d'autres non. Par exemple, les parents d'allaitement ne nous héritent pas. Même ma mère qui m'a allaité, pas ma vraie mère, la femme qui m'a allaité, qui est devenue ma mère, elle est devenue ma mère d'allaitement. Celle-là, elle ne mérite pas, par exemple, si je meurs, ni son mari qui est mon père d'allaitement. Même. Mais par exemple, ils sont devenus pour moi des maharim. Je peux pas épouser leur fille. Là, j'ouvre une parenthèse. très importante et petite, une petite parenthèse que beaucoup de gens ne connaissent pas. Regardez, quand une femme, par exemple, m'allait, une femme m'allait, supposons, quand j'étais jeune, ma voisine m'a allaité, vous connaissez les conditions, dans les deux premières années, plus de 5 fois. Ma voisine m'a allaité quand j'étais jeune, plus de 5 fois dans les deux premières années. Vous savez que cette voisine, elle est ma mère. Elle est ma mère de quoi? Allaitement. Je ne peux pas me marier avec ses filles. Mais si elle a un garçon, il peut se marier avec mes sœurs. Si elle a un garçon, il peut se marier avec mes sœurs. Et le moyen, tout le monde sait que je ne peux pas me marier avec... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. خير إن شاء الله. كيف كيلو تو؟ نعم. Y avait quelqu'un qui a dit que je voulais parler au micro. Si ce quelqu'un est là, qui c'est qui lève la main? Smaïn Bey, نعم. Où est-ce qu'il est Smaïn Bey? Smaïn Bey. C'est toi? Je te vois pas, تفضل. Je te donne le micro, تفضل. Je te vois pas, allez, تفضل.
Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Alhamdulillah. Alors, la question que je voulais poser, cher, tout à l'heure vous avez parlé du cher Salman Al-Ouda et de Safar Hawali. J'ai été étonné de votre réponse puisque ce sont des chers qui sont des chérures qui sont connues mondialement et respectées mondialement. Et je voulais vous demander est-ce qu'il est permis de parler en leur absence? Voilà, est-ce qu'il est permis dans l'islam de parler en l'absence de quelqu'un? Voilà. Et surtout si ce sont des chouyours, surtout si ce sont des ulama de la Ummah. Voilà, merci. Jazakum Allah khairan. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Premièrement, Salman est le deuxième que j'ai cité tout à l'heure, lui-même, quand je me rappelle comment il s'appelle, Safar Al-Hawali. Naam. Premièrement, ce ne sont pas des savants. Ce sont des, tu veux dire, des ulama dans le sens des douates. D'accord. Mais si tu veux dire que ce sont des ulama, c'est-à-dire savants, comme Cheikh Ibn Uthaymin et comme Cheikh Ibn Baz et les autres, ça c'est une grande faute. Mais je ne crois pas, Inch'Allah Ta'ala, que tu dis cela. Deuxièmement, en islam, c'est permis. C'est permis de parler de quelqu'un quand il est dans la faute et qu'il veut tromper les autres. Naam, c'est permis de faire une mise en garde contre lui, de dire, attention, ne suivez pas cette personne, il risque de vous tromper. Naam. C'est très connu que les deux hadous, qu'ils ont le minhaj des frères musulmans. Et que maintenant, certains ont dit, ils commencent un peu à revenir vers le vrai minhaj, mais Allah Ta'ala a'lam. Jusqu'à preuve du contraire, ils ont, j'ai dit tout à l'heure que l'un d'eux a écrit quelque chose de bien sur la aqidah. Mais maintenant, moi, je parle du minhaj, pas de la aqidah. Je parle du minhaj. Ils ne sont pas comptés comme des gens sur lesquels se basent les salafis. Jamais il y a un salafi qui a bien compris la salafia et qui dit, j'ai une question, attends, je vais téléphoner à Salman, ou bien je vais téléphoner à Safar Al-Hawali. Jamais. Si tu veux en être plus sûr et connaître bien leurs fautes par détail, alors je te conseille de lire le livre de Abdul Malik Ramadani Hafidahullah, Madarik al-Nadar, qui te montre tous leurs grands défauts. Les grands défauts, c'est comment qu'ils appellent les gens à rentrer dans les partis et dans le Jibhal Islamiya et de faire les mubaharat, de faire les manifestations, de faire ceci. Al-Muhim, ce sont des frères musulmans de Minhaj. Quant à Aqida, c'est autre chose, Allahu A'lam. Mais des frères, ce sont des frères musulmans de Minhaj. Naam. Tayyib. Malik, Inch'Allah, lis Inch'Allah Ta'ala le livre dont je t'ai parlé. Lis Inch'Allah Ta'ala le livre dont je t'ai parlé. Lis le livre, tu comprendras. Lis Madarik al-Nadar, tu comprendras qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'il faut les éviter. Lis quelqu'un qui n'a pas lu les défauts d'une personne, peut être excusé, peut-être qu'il ne sait pas. Mais lis d'abord, si après avoir lu ce livre et tu dis que yani, ce sont des salafiyins, alors ou bien tu ne connais pas bien ces deux bonhommes, ou bien tu ne connais pas bien la salafia. Une des deux choses. Tu sais que Cheikh Ibn Baz a fait une mise en garde contre eux. Facebook. Je ne les connais pas personnellement. Je connais leur minhaj. Je connais leur minhaj. Eux, je n'ai pas besoin de les connaître. Je connais leur minhaj. Ça me suffit, leur minhaj. Je ne connais ni eux, ni Cheikh Ibn Uthaymin, ni Cheikh Ibn Baz. Personne, je le connais personnellement. Ça me suffit qu'il y a leur minhaj, c'est tout, leur aqida. Je n'ai pas besoin yani, d'être, de connaître tout le monde personnellement. Naam. Abu Bilal, tafadhal. Salam alaikum wa rahmatullah. J'aurais aimé savoir si à la fin de la prière, quand on fait invocation, est-ce que la femme doit toujours porter son voile et ses vêtements et peut-on dire. Naam, entre parenthèses, le frère Ismaïl B me fait rappeler une chose. Maintenant, il y a beaucoup de gens, ou là de douat, qui après ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, etc., viennent à la télévision et dire que nous, on voudrait que les gens, yani, ce groupe, etc., et suivent la sunna, etc. Alors que certains douas faisaient, masha'Allah, la fitna. Et poussaient les shababs, poussaient les jeunes à ce qu'ils croient, à ce qu'ils combattent le gouverneur, à ce qu'ils ceci. Et dès que la fitna est arrivée, masha'Allah, ils ont vite changé de veste. Ils viennent à la télévision, certains douas de l'Arabie Saoudite. قال الله قال الرسول le prophète a dit alors que tout le monde sait que ils n'ont pas le minhaj des salafis, le minhaj des frères musulmans, et viennent à la télé et ils ont changé maintenant de veste classe parce que c'est trop tard maintenant et c'est la peur, etc. Et ils viennent à la télévision, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, alors qu'autrefois quand ils avaient le champ libre, c'était vraiment des gens qui poussaient les jeunes à combattre le gouverneur et à dire de très mauvaises choses sur l'Arabie Saoudite et sur son gouverneur et sur voilà hawla wa la quwwata illa billah. Si à la fin de la prière, quand on fait des invocations, est-ce que la femme doit toujours porter son voile et ses vêtements et que sans dire les invocations vont dormir sans vêtements les éclairer? Non, quand la femme termine la prière, elle dit salamu alaikum. Classe, elle peut enlever ses vêtements et rester avec les vêtements qu'elle met normalement. Et elle peut faire des invocations sans être voilée. Naam. Avant de dormir, elle rentre dans son lit avec sa tenue avec laquelle elle dort, la robe de chambre ou je ne sais pas quoi, et elle fait ses invocations et elle lit le Coran. Il n'y a rien qui empêche cela, bi'idhnillah azza wa jalla. Pourvu que pour le Coran, il faut qu'elle soit avec des ablutions. Naam. Inch'Allah, il n'y a rien de mal à cela. Naam. Salam à 57, ça fait valide. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Y a-t-il des hadiths chefs dans le livre, l'histoire des prophètes d'Ibn Kathir, ainsi que les tafsirs d'Ibn Kathir, barakatuh? Naam. Naam. Il y a des faibles et assez de faibles. Pourtant, Ibn Kathir est très connu, hein, l'élève de Ibn Qayyim, et il est très connu pour être quelqu'un qui, masha'Allah, il assistait beaucoup chez Islam Ibn Taymiyyah, c'est quelqu'un qui, suit la sunna, masha'Allah, mais n'empêche qu'il a quoi? Il a des hadiths faibles. Des hadiths faibles. Ne cliquez pas sur les liens sociaux, barakallahu fikoum, qu'Allah nous préserve. Al-Sunna, dis-moi qu'est-ce qu'il y a sur les liens. Normalement, Ismaïl B, tu n'as pas le droit de poser un lien. Tu n'as pas le droit de mettre un lien sans me demander la permission. Non, tu mets un lien seulement dans ta salle. Quand tu es dans ta salle, tu mets les liens. Dans une salle, moi quand je rentre dans une salle, ou une autre salle, jamais je ne mets un lien sans me demander la permission. Jamais. Il se peut que tu mettes un lien pour toi, c'est le haqq, c'est la vérité, et c'est ce qui va rentrer au paradis. Alors que c'est un égarement et ça va rentrer en enfer. Mais pour toi, devant tes yeux, pour ta science, peut-être c'est masha'Allah. Alors il ne faut jamais mettre de lien, c'est un conseil, avant d'avoir demandé la permission. Al-Sunna dit, ne cliquez pas sur le lien. Je pense que beaucoup ont dû cliquer. Al-Sunna, dis-moi qu'est-ce qu'il y a dans ce lien, Barakallahu fik. Qu'est-ce qu'il y a dans ce lien, Yannick? Ça parle de quoi? Je disais que Ibn Kathir, Naam, dans son histoire des prophètes, il a des hadiths faibles ainsi que dans son tafsir. C'est pourquoi Salim al-Hilali qui est connu, dans le livre l'histoire des prophètes, il lui a enlevé tous les hadiths faibles. Naam. Donc il faut lire yani avec bihadar. Naam. طيب. نعم سلام 57 ما كان لي ابن العمري ام عبد الله تفضلي سلام عليكم شيخ c'est pour inshallah la sœur qui souhaitait se convertir vous demande que doit-elle faire ou dire pour se convertir نعم Elle dit « Shadun la ilaha illallah, shadun muhammadan abduhu wa rasuluh » Si elle était chrétienne, elle ajoute que je me désengage du christianisme, si elle était chrétienne. Si elle était juive, elle ajoute « Je me désengage du madhab hada des juifs. » Naam. L'essentiel, c'est que dans le cœur, elle a yani, cette aqidah, Ensuite, elle l'a dit avec sa langue, « Shadun la ilaha illa, wa shadun muhammadan abduhu wa rasuluh » Et je me désengage si elle avait un autre din. Naam. C'est tout. C'est pas la fin qu'elle aille à la mosquée, c'est pas la fin de dire ça devant un imam, tout ça, yani, ce n'est pas une condition. Naam. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, si elle a des questions à poser ou là, c'est fadallah, inshallah ta'ala. Ibn العمري تفضل ابن العمري تفضل تفضل ابن العمري طيب ابن العمري في الصعد ومن بعد أم ميسا تفضلي وعليكم السلام تفضلي j'ai deux questions inshallah ta'ala pose deux questions je vais choisir une question je vais répondre sauf si elles ont un rapport Vous avez dit que Adam est le premier des prophètes et que Nuh est le premier des messagers. Naam. Sah, je l'ai dit. Sah. Je ne comprends pas la différence entre prophète et messager. Sah. Le messager, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un message, un nouveau message. Le prophète, il suit. Il suit quoi? Il suit ce qu'a fait venir le messager. Mais le messager, Allah Ta'ala lui donne un message pour qu'il le propage. Tandis que le prophète, il vient après le messager et il continue sur le même chemin que le messager a tracé. Naam. Et d'autres ont dit, le prophète, c'est celui que Allah Ta'ala envoie à un peuple mu'alifoun. Mu'alifoun, ça veut dire qu'ils ne sont pas en guerre contre lui, ni en contradiction. Et le messager, c'est quelqu'un que Allah Ta'ala envoie à un peuple mukhalifun, à des gens qui sont contre lui, etc. Donc, il leur vient avec un message. Naam. Voilà la différence entre ces deux. Une nation. Chaque messager s'envoie à une nation. Nam. Nam, c'est ça. Autre chose, Inch'Allah? Et la deuxième, c'est juste pour ceux qui souhaitent savoir comment vous contacter en privé. Car elle n'a pas le son ce soir. Nam, qu'est-ce qu'elle veut dire, elle me contacte en privé? Elle est par téléphone ou là par email? J'ai pas compris. Est-ce qu'elle veut dire par téléphone ou là par email? Salam alaikum, chef. Je m'excuse pour la question refusée. C'est pas moi qui choisis, c'est elle. Salam alaikum, je m'excuse pour la question. Pour sujet, j'aimerais savoir si lors de l'accouchement de mon épouse, j'ai le droit d'y assister sans que je serai en présence d'infirmiers, d'infirmières. Je vous l'offre. Chef, le frère Abou Bilal vous demande si vous pouvez finir de répondre à sa question. Voyez, Abou Bilal, peut-être que je n'ai pas terminé sa question, je ne sais pas, je vais voir, je n'ai pas remarqué. C'est normal que tu puisses assister lors de l'accouchement de ton épouse. Naam. C'est toi qui as le plus de droits que les autres. Puisque c'est ta femme. Si tu veux assister, tu assistes. C'est toi qui as plus de droits que tout le monde. Naam. Et quant à la question de Abou Bilal, attends, je vais la voir. Où est-ce qu'elle est d'abord? Il faut que je remonte beaucoup, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ça y est. Ceux qui sont dans ceux qui n'ont pas le point rouge, qu'ils m'aident, Inch'Allah, ils me montrent quelle est la question de la femme de Abou Bilal. Tayyib, alors en privé en journée, est-ce possible sur Paltok? D'accord. Demain, Inch'Allah, vers les environs de 16h30, 17h. C'est-à-dire chez nous. Non, demain, chez vous, ça sera 16h30, ça sera 15h30 chez vous, 16h. Demain, vers 15h30 chez vous, 16h. Rappelez son pseudo, Naam. Donne-moi, Inch'Allah, son pseudo. Les autres, Inch'Allah, cherchez-moi la question de la roche, je ne l'ai pas trouvé. La question de Abou Bilal. Oumou Mouawiya. Bi-idhnillah azzawajal. Oumou Mouawiya, bi-idhnillah azzawajal. Je vais... Est-ce que c'est sûr que son pseudo s'écrit comme ça? Si c'est sûr, je vais le mettre dans la liste. Je vais le mettre dans la liste pour que je puisse lui parler. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, je l'enlève. Attends, je vais le mettre dans la liste. Attends, je vais être... C'est sûr que c'est elle. Attends, je vais voir si c'est sûr que c'est elle. Une seconde. Moi j'essaie de le copier. D'accord, Inch'Allah Ta'ala. D'accord, puisqu'elle est Wetmo. Elle est contactée maintenant. Elle est présente maintenant. Je vois qu'elle est présente quelque part sur le Paltok. Naam, elle est présente. Demain, Inch'Allah, Ba'd Salat, yani vers 16h, vers 15h30 chez vous, 16h. Inch'Allah Ta'ala. D'accord. طيب. Ibrahim Al-Assad, tafadhal. Normalement, ça fait longtemps que le cours est terminé. Mais je vais terminer, Inch'Allah, jusqu'à 1h du matin. C'est-à-dire, il reste 16 minutes. Il reste 16 minutes. Bi-idhnillahi azzawajal. Ensuite, yani, je n'ajouterai pas une minute. Quel est le statut des opérations martyrs en islam si l'opération se fait sur des militaires ennemis? En ce qui concerne le chef Salman et Safar, ils ont dit la vérité concernant l'interdiction de faire entrer les koufars en Arabie et la méfiance de s'allier avec les Américains. Tayyib. Je te réponds, Inch'Allah Ta'ala. en ce qui concerne ce qu'ont dit Cheikh Sulman et Safar, ils n'ont pas dit la vérité. Ils se sont trompés. En islam, il est permis que tu fasses venir des koufars si tu as des mashakils. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait aider par un kafir qui s'appelle Abdullah ibn Urayqat. Il lui a donné de l'argent pour le guider de la Mecque vers Médina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fait aider de Umayyah ibn Khalaf. Il lui a loué son bouclier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un kafir. Il l'a envoyé comme espion qui s'appelle Khouza'a, qui résout son nom. Et il a envoyé un groupe de Al-Kitab. Il les a envoyés pour leur donner quoi, pour qu'ils lui ramènent des nouvelles, etc. de l'ennemi. En islam, tu peux dire à un kafir, si tu m'aides dans telle ou telle chose, je te donne de l'argent. Aide-moi par exemple à construire cet immeuble et je te paye. Et, ou bien, aide-moi, il y a des gens qui veulent rentrer dans mon pays et me prendre mon pays, aide-moi et fais les sorcières et je te paye. Naam, ça c'est permis en islam. Donc, ils se sont trompés quand ils ont dit que non, c'est pas ça, je ne parle pas de nos frères en Afrique, c'est pas ça, faut pas comprendre. Moi je parle pas de cette chose. Je ne parle pas de cette chose. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en islam, il est permis que tu fasses venir quelqu'un. Tu fasses venir un kafir chez toi, ça s'appelle le mu'ahid, ça s'appelle le musta'min. Ils ne savent pas que, ils croient que les kuffars sont tous dans le même rang. Ils ne font pas la différence entre celui qui nous fait la guerre, celui qui ne nous fait pas, c'est comme ça. Naam. Mais Hadith, comme tu dis toi, c'est assez long, etc. Laisse-la, Inch'Allah Ta'ala, pour un autre daf. Laisse-la, Inch'Allah Ta'ala, pour un autre daf plus détaillé, Inch'Allah Ta'ala. Abu Halima, fais vite, Inch'Allah Ta'ala. Abu Halima, fais vite, il ne reste qu'un quart d'heure, fais vite. Un frère demande si votre site a été modifié. Dis-lui, qu'est-ce que ça veut dire, il a été modifié? Je ne comprends pas. Comment il a été modifié? Cheikh, salam alaykoum wa rahmatullah. Peut-on réciter l'invocation de la consultation lors du sujoud ou du tachéhoud d'une prière surrogatoire s'il y a eu des modifications? Il n'y a pas eu des modifications. Il n'y a pas eu des modifications. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de modification. Non. L'invocation de la consultation, beaucoup de ulama disent, d'après le hadith, quand tu dis, tu termines la salat, tu fais cette invocation. Et Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit, cette invocation, on la fait à la fin du tashahhud. Quand tu fais le tashahhud, avant de terminer le tashahhud, tu fais cette invocation. Ça, c'est Cheikh Islam qui a dit cela. Et les autres disent, tu le fais après avoir dit salam alaikum. Mais je ne connais pas quelqu'un qui a dit, on fait ça lors de quoi? Lors du sujoud. C'est pour ça que lors du sujoud, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider, etc. Parce qu'il dit qu'il y a une photo d'un homme à gauche. Bon, attends, je vais rentrer voir qui c'est cet homme. La première fois que j'entends parler de ça. Et ce n'est pas étonnant. Priez. Donc, Inch'Allah Ta'ala, la question a été comprise. Dialou 36, ça fait mal. Naam, je viens de voir un homme à gauche, comme tu as dit. Premièrement, je ne sais pas qui a fait cela. Deuxièmement, même mon nom ne s'écrit pas comme ça, il s'écrit avec un T. Kalabi, avec un T. Ici, c'est écrit avec un C. Peut-être un de mes amis, il y a un qui connaît le mot de passe, peut-être qu'il est rentré, il s'est trompé, il a créé mon prénom comme ça. Mais la photo que tu vois, ce n'est pas une photo avec. C'est là qu'on colle la photo. Là-bas, on doit coller la photo. C'est pour ça que c'est clair comme ça, c'est transparent. Ils mettent une photo comme ça qui est standard pour tout le monde. Et ensuite, toi, tu mets ta photo. Donc celui qui est sur la photo, ce n'est pas moi. Barakallahu fikum. Naam. Ensuite, je ne sais pas pourquoi ce frère a enlevé, il y avait là-bas quelque chose qui est écrit Ibn Taymiyyah, il a enlevé, il a mis cette photo. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, moi, j'ai essayé de l'enlever, je n'ai pas pu. Naam. J'ai essayé d'enlever cette chose, je n'ai pas pu. Je vais réessayer à la demain. Salam alaikum, cher. C'est que Talib 10 a cité Amabou Bamba. Il vient, il adore ce grand Manitou là-bas. Cher en Afrique, il y a plein de ce genre de personnes. Aussi chez nous, Mali. Cheikh Salamou, Jazakallahu Khair, ya Cheikh. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce grand Manitou, là. Amabou Bamba. Naam, si j'avais déjà entendu parler de lui, je lui aurais bien répondu, mais je ne savais pas de qui il parlait. Je croyais qu'il parlait de quelqu'un de l'Arabie Saoudite, qui disent qu'il s'appelle Cheikh Ahmed, et qui a fait un rêve, etc. Mais Jazakallahu Khair pour cette information. Comme ça, la prochaine fois, inchallah ta'ala, je saurai lui répondre. Naam, la prochaine fois, je saurai lui répondre. On doit lui faire des doua miskin. Naam, on doit lui faire des doua miskin. Il est vraiment dans l'égarement. Naam. C'est sûr qu'il dit plus que cela. Il y a quelqu'un d'égaré. Qu'est-ce que tu attends de lui? Naam. Oum Souleymane du 13. Tafadlali. Je crois que c'est Souleymane qui va écrire cette loi. Il est assez âgé, Inch'Allah. Assalamu alaikum, salam pour voir cette eau. Vous allez mieux. Ma question est la suivante. Tafadlali. Dialo, jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Salam alaikum, la question suivante. Vous avez parlé du tafsir. Peut-on scier aux tafsirs qui sont très détaillés avec délits? Des fois, des délits sans authentification. Des fois, quand c'est très détaillé comme ça, c'est étonnant que quelqu'un puisse donner des détails. Non, des détails qui soient authentifiés. C'est pour ça que tu as bien dit tu as bien fait de dire, ou des fois, des détails sans authentification. Non, sur tous les détails. Sur tous les détails, quand quelqu'un rentre dans les détails, il commence à décrire, comme avec précision, à donner l'âge, ceci, cela, il faut vraiment qu'il ait un délire solide. Il faut vraiment qu'il ait un délire solide. C'est pour ça que la plupart des églisettes dans tout ce qui est le Coran, ils parlent toujours de généralité. S'ils ont quelque chose, ils donnent un délire. Mais sinon, ils ne peuvent pas rentrer dans les détails. C'est pour ça que si tu trouves un livre de texte qui est très détaillé, il n'est pas trop scifié. Il ne faut pas trop s'y fier. Regarde par exemple le mot. Regarde par exemple Tafsir Abdullah ibn Abbas. Il y a un tafsir qui s'appelle Tafsir Abdullah ibn Abbas. Celui-là, ce n'est pas un vrai tafsir. Ils ont dit que c'est celui d'Abdullah ibn Abbas, alors que ce n'est pas lui qui l'a écrit du tout. Abdullah ibn Abbas, le compagnon, radiallahu ta'ala anhu. Donc les gens ont profité. Ils ont dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, le prophète, alayhi salatu wasalam, il lui a fait un doua, il lui a dit Allahumma faqihu fi din. Allez-moi ta'ouïl, ça c'est le tafsir. Donc, on va écrire un tafsir et on va dire que Abdullah ibn Abbas l'a dit. Comme ça, tout le monde achètera ce tafsir. Et il est plein de détails qui ne sont pas vrais. Et la même chose pour tafsir ibn Sirin. Le tafsir des rêves. Le tafsir des rêves. Il s'appelle tafsir ibn Sirin. Que beaucoup de femmes achètent. Et elles croient que c'est vrai ce qu'il y a à l'intérieur. Alors que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est faux sur faux. Faux sur faux. Naam. Mais aussi ceux qui viennent à la télévision et qui donnent avec des détails. Avec des détails. Là, tu lui dis, j'ai fait ci, cela, j'ai vu ceci, cela dans le rêve. Il commence à te dire par détail. Ça veut dire que tu vas mettre ceci, cela, et tel jour il va se passer ceci, avec cheveux noirs, une boucle d'oreille, ceci. Tout ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. Tout ça, c'est faux, ce n'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on interprète les rêves. Les rêves, il y a des grandes règles sur lequel on se base, et on interprète, et on ne sait pas si c'est vrai. Celui-là, il se donne avec des détails. Naam. Et même les questions sont très détaillées. Je me suis vu dans le rêve en train de me gratter les cheveux, en train de me peigner les cheveux, en train de je ne sais pas quoi, la blouse, en train d'avoir le robe rouge, vert, bleu, bois, bleu ciel, à chaos, blanc, court. Ensuite, il commence à détailler tout ça, que ton machin a été vite. Si c'est rouge, c'est ceci, si c'est vert, ceci, si c'est blanc, c'est ceci, court, si c'est rouge, c'est batterie, et quand on est chant, on est. Et les messieurs, les dimensions, les machins, les affiches, les lock-bots, c'est vraiment ça, celui-là. Tu fais un c'est inversé au milieu. Inversé au milieu pour que les gens yani, soient vite attrapés par l'enfant. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Elle m'a accueilli, Allah. Et on aime, pas celle, parce que c'est ma blême. Sayyid, puisque l'une n'est pas de toi, ma'alish. Donc tu as une question et l'autre pour une autre personne. Ça se l'a. Je connais une personne qui a menti à l'assistance sociale pour avoir un logement sans travail. En France, avant cela, on ne donne pas de logement, sauf peut-être après des années et des années. A-t-il commis un péché? Il a dit qu'il n'a pas de parents pour être hébergé et qu'il dort dans sa voiture, barakallahu fik, bien sûr. Naam, je ne sais pas si c'est vraiment comme tu dis. Si c'est vraiment comme tu dis qu'il a dit, que vraiment yani, il dort dans la voiture à ce point, et qu'il n'a pas d'argent pour acheter, et qu'il a essayé d'emprunter, il n'a pas pu. Yani, c'est plus ou moins. Yani, ce n'est pas très grave à ce point. Naam. Surtout s'il est dans la daroura. Naam. Lakin, je ne peux pas dire à quelqu'un yani, comme ça va mentir. Mais je dis que il est plus ou moins dans la daroura. Naam. Si vraiment yani, quelqu'un arrive au point de dormir dans la voiture, yani, c'est vraiment, il faut qu'il trouve une solution. Lakin, la solution, il doit toujours commencer par le halal. Essayer d'emprunter de l'argent, essayer de louer un petit studio, essayer comme ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait quelle est son intention. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Son travail. Naam, j'ai compris, il ne donne pas de logement son travail. Et lui, est-ce qu'il travaille ou là, il ne travaille pas? Vu qu'on est sachant qu'il ne travaille pas, il ne travaille pas. Non, il ne travaille pas. Non. Khalid Hada, il demande à une autre personne, c'est mieux. J'aime pas prendre la responsabilité. Parce qu'ils sont de quelqu'un. Je voudrais savoir si on a le droit de toucher une indemnité d'une assurance lors d'un décès d'un proche. Je voudrais savoir si on a le droit de toucher une indemnité d'une assurance lors d'un décès d'un proche. C'est déjà fait pour le mensonge. Tu vois, donc celui-là, il demande, quand il a, il va bientôt, on va bientôt lui donner la clé et il va demander. Non. C'est toi qui demandes à sa place. Lui, il n'a pas eu peur. Lui, il n'a pas eu peur, il ne veut pas demander. Je, inshallah ta'ala, peut-être qu'il a demandé à d'autres ulama. Inshallah, peut-être qu'il a demandé à des ulama plutôt. Pas d'autres ulama, des ulama. Je voudrais savoir si on a le droit de toucher une indemnité d'une assurance lors d'un décès d'un proche. En général, l'assurance est interdite. En général, l'assurance est interdite. Et on ne s'assure en rien, sauf en des choses où on nous oblige à nous assurer. Comme la voiture. Tu es obligé de t'assurer. Mais la maison, tu n'es pas obligé de t'assurer. C'est pour ça que tu ne t'assures pas pour la maison. Et la voiture, quand tu t'assures pas tout risque et à vie. Tu assures seulement le minimum. Et comme ça, l'assurance, en général, c'est haram. Pourquoi? Tu donnes qimar, ça s'appelle la loterie. Tu donnes une certaine somme d'argent et peut-être tu ne vas jamais faire d'accident. Donc, à chaque fois, on te prend ton argent. Ou alors, tu donnes seulement une petite somme et tu vas faire un accident, tu as donné 100 euros, on va te donner 1500 euros ou les 5000 euros. Ça s'appelle la loterie. On joue à la loterie. C'est ça le qimar. Donc, pour Hadat al-Mort, je ne pense pas que quelqu'un puisse assurer Hadat pour le mort. Il n'a pas le droit d'assurer pour le mort. Ah, barakallahu fik, naam. Barakallahu fik pour la femme. Naam. مركز تفضل. نعم أم عبد الله 23:59. Salam alaikum wa rahmatullahi wa je voudrais savoir Adam alayhi salam est notre père. Donc d'après la création, peut-on dire que quelque part, en gros, que l'on est tous la même famille. Ou aussi, Inch'Allah, est-ce que je peux reprendre un rendez-vous téléphonique. Naam, commençons par Adam alayhi salam, puisque c'est notre père. C'est pour ça que nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit kulukum min bani adam. Nous sommes tous des frères parce que nous revenons tous vers un même père et nous revenons tous vers une seule mère qui est Hawa, sauf ceux qui disent on descend d'un singe. Ceux qui disent on descend d'un singe, ceux-là ne sont pas nos frères et on n'est pas ni leurs frères. Ceux-là, leurs frères, ce sont les gorilles, les guenons et les singes. Il est, je ne sais pas comment, il y a beaucoup de catégories. Ce sont ça, leur famille. Nan. C'est le chimpanzé. Hein? Son cousin, c'est le chimpanzé. Son frère, c'est le singe. Sa soeur, c'est la guenon. Sa mère, c'est la gorille. Nan. Moi, alhamdoulilah, mon père, c'est Adam. Et ma soeur, c'est. Et ma mère, c'est Eve. Inch'Allah ou ta'ala. Non, pour le rendez-vous téléphonique, Inch'Allah ta'ala, pour après-demain. Après-demain à 15h30 chez vous. Après-demain à 15h30 chez vous. Et demain, Inch'Allah ta'ala, si tu nous vois quelque part, rappelle-moi, bi'idhnillahi azza wa jal. Rappelle-moi, bi'idhnillahi azza wa jal. Abu Talib, tafadhal. Je donne le micro, Abu Talib.
نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شيء صعب ما شاء الله. أحسن الله شيخنا ابن تيمية وأحسن الله إياك يا شيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا لهذا. والله ça me fait plaisir de vous revoir. ما شاء الله ça fait un petit moment و الحمد لله tellement plus donc j'ai le moyen de pouvoir assister à vos dorus et c'est toujours الحمد لله نعمة de pouvoir vous avoir à nos côtés. Et j'en profite pour dire à mon frère et aux soeurs, Inch'Allah, qui sont présents, prenez soin de cette ni'ma parce que vous l'aurez pas tout le temps, Inch'Allah. Et sachez en utiliser avec respect et avec sagesse surtout. Parce que je sais que Internet, c'est une bonne chose pour apprendre, mais on se laisse vite disperser par des PV, par des recherches, etc. Donc, Inch'Allah, profitez de cela. Walhamdulillah, jazakallahu khairan. Barakallahu fikoum wa hayakoum Allah jamiran. Et Achir, j'ai une question, Inch'Allah. C'est concernant donc le tashahoud. Concernant le dernier tashahoud, il y a un frère, il y a Kaline, concernant le fait de rester le doigt bloqué. Il m'a dit que lorsqu'on disait à la fin du tashahoud, wa ashhadu an la ilaha illallah, yani on laissait la main, le doigt à l'horizontale. Et quand on disait wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah, on l'inclinait vers le bas. Et après, on passait le salam. Wallah alim, j'aimerais avoir des précisions, Inch'Allah. Si vous avez compris. Est-ce que la question est comprise, Inch'Allah? Non, je vais laisser le micro. Jazakum Allah khayran wa hayakum Allah jami'an. Wa barakallahu fikum wa ahsanallahu ilayk ya shaykhana. Hafidak Allah. Amin.
انت ايضا وجزاك الله خيرا. كما قلت على question du tashahhud, نعم question du tashahhud, il n'y a aucun dalil qui va dans le sens de ce qu'a dit notre frère. Il n'y a aucun dalil qui va dans le sens de ce qu'a dit notre frère. C'est-à-dire que quand on dit Shahadun la ilaha illallah, on le met debout. Quand on dit Muhammad Rasulullah, on le descend. Il n'y a rien de pareil dans la Sunna, ni encore moins dans le Coran. Non. C'est pour ça que on commence depuis qu'on commence à dire le tashahhud, on fait bouger le doigt sans le fixer, sans le fixer. Il bouge, il ne doit pas s'arrêter. Naam, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est dit de lui que quand il faisait le tashahhud, il bougeait le doigt et le pointait vers la qibla. Donc, fixe. Je suis dans le tashahhud et tant que je suis dans le tashahhud, ça veut dire quoi de fixer mon doigt et de le faire bouger. Et il l'a azzawajal. Cheikh Lasseur me dit que vous n'avez pas compris sa question sur l'assurance. Puis-je préciser? Ça va aller vite, ça va aller parce que t'as le temps, ça va aller. Lasseur Oum Hassa demande un PV rapide téléphonique, Inch'Allah Ta'ala. J'ai pas compris ce que ça veut dire un PV rapide téléphonique. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, mon beau-frère est décédé et l'assurance du conducteur vont venir demain chez moi pour parler de ses indemnités. Wesmo, la personne qui est décédée, il paye l'assurance, ça? Comme Adam, celui qui est décédé, il paye l'assurance. Dis-moi si c'est ça. Puisqu'ils vont venir, c'est qu'ils payent l'assurance. Non, subhanallah al-azim. Dans un accident de voiture. Naam. Il est mort dans un accident de voiture. Qui va lui donner de l'argent? On lui donne de l'argent que s'il paye l'assurance. Comment? J'ai pas compris. Sauf si on l'a, je sais pas comment on dit le mot en français. Hein. Sauf si on l'a écrasé, par exemple, et il est mort. C'est quelqu'un qui l'a tué. C'est l'assurance du conducteur apparemment. Non. En principe, quand quelqu'un tue quelqu'un, et il l'a pas fait exprès, car celui-là sûrement ne l'a pas fait exprès. C'est l'assurance ou la famille à lui, normalement c'est la famille, mais maintenant c'est l'assurance qui donne aux parents de cette personne, ce qu'on appelle la dia. Non, ce qu'on appelle la dia. Oui, c'est un accident. Donc, Inch'Allah Ta'ala, attends-moi pour que je te donne des précisions sur cette chose. Donne-moi, Inch'Allah, un ou deux jours. Pour être sûr, yani, parce que je sais que normalement c'est l'assurance qui lui donne. Mais pour être Inch'Allah Ta'ala plus sûr, tu lui dis qu'elle commence les démarches, ensuite elle est libre. Si elle doit prendre, elle prend, si elle ne prend pas, elle ne prend pas, elle annule. L'essentiel c'est qu'elle commence les démarches avec eux. Après Inch'Allah Ta'ala, on doit voir bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. La dernière personne, Inch'Allah Ta'ala, Jacques 2, dis-lui si elle veut, Inch'Allah Ta'ala, si elle veut,